Cette émission vous est proposée avec la somptueuse participation de Aymeric Dumy, Omar Djellassi, Pierre-Jean Soli, Gauthier Dubuis, Jeff C. Higuer, Céd, Damien Cuvillier, Folcaillot et Rémi Matisse. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les deux semaines l'actualité tech, internet, gadgets et aujourd'hui surtout CES 2016, le grand salon de l'électronique de Las Vegas où se réunissent tous les constructeurs du monde pour vous présenter leurs nouveautés. Et pour m'aider à vous présenter ce qu'ils vous ont présenté, je suis avec l'éminent Cédric Ingrand qui lui était sur place, qui en revient à peine, qui est donc épuisé et qui carbure au café. Comment ça va Cédric ?
Ben, je crois que tout est dit. quatrième café depuis ce matin, 6h, donc nickel.
Très bien. Bon, j'espère que tu auras des trucs intéressants à nous raconter. Et pour nous accompagner également, on aura un nouveau dans l'émission, à savoir Julien Cadeau de Numérama. Comment ça va, Julien ?
Eh bien, ça va très bien, très reposé pour le coup.
Ben oui, puisque toi, comme moi, tu l'as suivi ce CES depuis Paris. On disait que c'est plus simple à faire depuis Paris. En fait, nous, ça va, on est tranquille.
C'est plus reposant, effectivement.
Bande ouais. De feignasses.
Bah, on en parlait avant l'émission, en fait, et on se disait, mais aujourd'hui, pour vraiment tout suivre, le plus intéressant, c'est quand même de rester là où on est. Et puis, alors Julien, tu me disais que dans la rédac de Numérama, vous êtes installé un gros rétroprojecteur et que vous étiez tranquillement installé pour suivre toutes les news, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, on avait fait un montage un peu bizarre avec, on avait connecté un flux RSS à donc un écran et avec un vidéoprojecteur qui projetait ça sur un mur, et donc on avait toutes les breaking news qui passaient comme ça, et c'était plutôt sympa pour suivre l'actualité, ouais.
Alors du coup, Cédric, je sais que vous, enfin, chez Humanoïde, vous aviez Ulrich qui était sur place aussi, donc il faut quand même du monde, mais Cédric, toi qui es sur place, c'est un petit peu la question qu'on se pose à tous les coups, à tous les grands salons maintenant, mais quel est l'intérêt d'être sur place quand on peut suivre ça tellement mieux de loin ?
Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que moi, il y a des choses que je vais pas voir à CIS, mais c'est un choix et puis c'est aussi parce que ça a moins d'intérêt pour moi. Je peux même m'en expliquer, mais les confs, par exemple, c'est-à-dire que la veille de l'ouverture de CIS, il y a toutes les conférences de presse de tous les grands constructeurs. Donc, tu y vas, tu fais la queue pendant 2 heures. Enfin, bref, c'est tout un trafic. On se croit dans un concert de Lady Gaga, tu vois. Il y a les attachés de presse qui sont là. S'ils te connaissent, ils te donnent un petit pass pour passer devant. Sinon, tu fais la queue pendant 2 heures pour aller voir une conf d'une heure. C'est assez, parce qu'en plus, c'est très normé, hein, tu vois, c'est LG 8h, Samsung 11h, enfin, etc.
Juste pour expliquer aux gens, en fait, les conférences ont lieu avant le salon parce qu'au salon, ils présentent les événements qui... ils présentent les produits sur leur stand. Donc, évidemment, ils veulent les montrer à la presse avant pour que ça soit pas genre on débarque dessus et on essaye de comprendre de quoi il s'agit, etc.
Exactement. Quoi. Et puis, accessoirement, le but est quand même que les journalistes puissent aussi aller voir les stands et pas qu'ils soient bloqués dans les conférences de presse alors que le salon est ouvert. Parce qu'en plus, le salon était un peu plus court. Enfin, c'est assez curieux. Ils ont décalé. Le salon n'ouvrait que le mercredi cette année. L'année prochaine, ce sera pire. Ça n'ouvrira que le jeudi. Mais les confs, c'est pas mon truc parce que moi, en télé, une conférence de presse, ça a pas beaucoup d'intérêt. Je préfère voir les produits sur les stands. En revanche, moi, c'est très intéressant pour moi qu'il y ait des conférences et que je puisse les suivre sur Engadget et ailleurs pour savoir ce que je vais aller voir le lendemain sur les stands.
C'est ça.
Voilà. Donc ouais. Là, pour le coup, je suis d'accord. On en est un peu au même. On a un peu les mêmes contraintes. Mais il s'est quand même passé quelque chose ces 2 dernières années, on va y revenir amplement, mais avant, il y a 2 endroits schématiquement à CIS. Il y a le grand convention center avec les 3 grands halls, et puis il y a un plus petit convention center qui s'appelle le Sands où on trouve Eureka Park, où on trouve les startups. Avant Eureka Park, c'est un truc où il y avait... Allez, je vous la fais rapide, des revendeurs chinois de clés USB, quoi, tu vois, enfin, des trucs pas très intéressants. C'est le truc que t'allais voir quand t'avais fini tout le reste, quand t'avais fini de passer 3 jours solides, tu vois, genre 9h-18h au Convention Center, tu disais, attends, il me reste 3 heures à tuer, là. Allez, je vais aller voir le Sands, je vais aller voir Eureka Park. Là, ça a quand même entièrement changé. C'est-à-dire que tu as d'un côté les grands constructeurs au Convention Center et de l'autre côté l'espèce de foisonnement incroyable de start-up. Enfin, c'est quelque chose entre l'hypermarché de l'innovation et le marché aux bestiaux, où chaque start-up a 2 mètres de stand, mais elles sont des centaines et des centaines et des centaines. Il y avait 200 françaises, quelque chose comme... Enfin, je sais pas combien il y en avait, mais en gros, tu étais dans un hall gigantesque, tu regardais devant toi 200 mètres, sur les côtés, 200 mètres de chaque côté, et une start-up tous les 2 mètres. Et là, c'est quand même le truc où il faut aller pour le voir, parce que
il faut fouiller aussi.
Il faut fouiller. Il y a des trucs qui n'ont aucun intérêt. Il y a des trucs extraordinaires. Mais là, c'est difficile de dire. C'est pas grave. J'ai pas besoin d'y aller pour voir. Ça, là, c'est plus possible. C'est terminé.
D'accord. Donc c'est ça qui a vraiment changé ces dernières années.
Très clairement.
Alors évidemment, le CES, vous le dites tous les deux, il y a énormément de choses qui se passent. Il faut suivre toutes les news de partout. Il faut aller vadrouiller dans tout le salon. Évidemment, on ne peut pas tout suivre. Il y a des trucs qui pourraient être intéressants à présenter ici, mais on n'a juste pas le temps parce qu'il y en a des milliers. Et puis il y a aussi des trucs qui ont pas forcément leur place dans l'émission, parce que le CES, c'est l'électronique grand public, et ça inclut, moi j'ai mis dans les notes du document, par exemple, les fours, les machines à laver, les frigidaires, tout ça. Encore que je regardais la conférence Samsung, il y a une machine à laver qui a un truc hyper malin qui te permet de laver ton... En fait, t'as une arrivée d'eau comme une sorte de petit lavabo, mais dans la machine à laver, avec un panier pour nettoyer d'abord un petit peu, et puis ça te lâche le vêtement directement dans la machine. C'est hyper malin, ce genre de truc. Mais non, je t'entendais faire une interjection.
Non, c'est d'ordinaire, ça, c'est ce qu'on appelle le brun. Enfin, pardon, le blanc en électroménager. C'est les trucs auxquels toi et moi, on touche pas. Enfin, moi, j'achète un frigo une fois de temps en temps, mais ça va pas plus loin. Et là, quand même, il se passe des choses. C'est-à-dire que le nouveau frigo, d'ailleurs, de Samsung, devient aussi le hub des objets connectés de la maison. Il y a un grand écran dessus, tu tiens l'agenda familial, tu envoies des messages vers l'écran. Ça devient l'écran familial, tu sais, comme on fait des...
Ça, j'y crois moyen, je t'avoue. C'est l'écran sur le frigo, on en parle depuis... peut-être que ce coup-ci, c'est le bon, hein, mais je suis pas...
Ce coup-ci, on se rapproche d'un truc intéressant et utilisable. C'est-à-dire qu'on a fini dans les fantasmes de... il va y avoir un lecteur de code-barre quand tu n'auras plus de pizza, tu passeras le code-barre de ta pizza et ça commandera automatiquement ta pizza.
Ouais, c'est ça.
Alors ça, c'est bien, c'est jusqu'au jour où tu as des enfants et où ils comprennent comment ça marche et où tout à coup tu as commandé 64 pizzas. mais justement, voilà, ils sont pas allés vers là, ils ont fait d'autres choses, on pourra en reparler, mais par contre, ils ont reconnu un truc intéressant pour moi en termes de presque plus de sociologie que de technologie, c'est que aujourd'hui dans un foyer moyen normal, il y a 2 hubs de la vie familiale, c'est le frigo et la télé.
Ouais, c'est ça. Et justement, la télé. Alors bon, il y a plein de choses dont on va pas parler, mais il y a aussi plein de choses dont on va parler. On évoquera peut-être les télés un petit peu plus tard. Il y a évidemment l'informatique, la technologie portée, les drones, les PC, etc. Mais pour moi, il y a 3 centres qui ont vraiment attiré mon attention dans ce CES. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus et vous me disiez ce que vous avez retenu. D'une part, la réalité virtuelle avec Oculus qui a lancé les précommandes de son Rift pendant le CES, en fait, même si c'était pas forcément exactement au CES que ça a eu lieu. Il y a l'initiative de la French Tech qui, pour le coup, moi j'ai peut-être un petit peu gentiment moqué au cours des années précédentes, et pour le coup, force est d'avouer que ça a quand même fonctionné et que la France a pris une place prédominante à ce CES dans ce cadre-là, dans le cadre de la French Tech. Mmh. Et puis surtout, alors ces deux-là, on va y revenir, mais surtout... les voitures qui, pour le coup, on en parle toujours évidemment des voitures comme on parle de tout au CES, mais pour moi, les voitures ont pris la première place de ce CES parce qu'il y avait énormément de choses intéressantes qui se sont passées autour des automobiles. C'est pas qu'il y avait des trucs incroyables et hyper innovants, mais par contre, là, on sent que, d'une part, pour les systèmes d'infotainment des voitures, hein, c'est le tableau de bord et le tableau de bord connecté, et d'autre part, pour les voitures autonome, on a eu et en plus les services de voitures à louer entre guillemets type Uber, Lyft, etc. On se rend compte que l'industrie de l'automobile est vraiment à la page de tous ces changements et ils étaient absolument partout quoi.
C'est très clair. Enfin, je pense qu'elle a fait l'industrie auto a fait une OPA sur le CES et ça a très très bien marché cette année parce qu'ils avaient des choses à présenter. Peut-être contrairement aux années précédentes où je me souviens on a vu plus comme tu dis d'intégration entertainment dans les voitures etc. On en a vu encore cette année, mais il y avait vraiment une différence Notamment sur les annonces côté voitures autonomes. Il y en a même qui ont profité pour parler de simples voitures électriques. Enfin, c'était vraiment ils ont vraiment fait de la voiture un objet technologique en soi. Et du coup, ça avait clairement sa place au CES.
Absolument. Il faut dire que historiquement, il y a un grand hall au CES qui est dédié à l'automobile. Mais tu l'as dit, d'ordinaire, c'est l'automobile au sens de, tu vois, l'infotainment. Enfin, en gros, c'est des stands d'autoradio. Tu vois, si tu veux mettre une colonne de base de 8000 watts dans ta voiture, c'est là que tu vas la chercher. Avec, c'est le dernier endroit où il y a encore des booth babes, des jeunes femmes pas énormément vêtues, avec des gros haut-parleurs dans les mains. Enfin, voilà, c'est un truc un peu beauf dans l'ensemble. Sinon que là, tout à coup, c'est un peu devenu en bonne partie le grand hall de la numérisation de l'automobile, c'est-à-dire des ordinateurs qui vont à l'intérieur, avec même des choses. Moi, j'ai vu des choses extrêmement étonnantes. Audi avait un grand stand. Normalement, là aussi, c'est plutôt des stands de fabricants d'accessoires, etc. Non, là, les constructeurs y sont. Et Audi, par exemple, ils montraient des choses ahurissantes sur les prochaines générations de phares qui seront en fait des projecteurs. Où tout à coup tu vas avoir un composant dans la voiture, une caméra qui va reconnaître les voitures qui viennent en face. C'est-à-dire que tu seras, imagine, un plein phare qui éblouirait tout sauf les yeux du conducteur qui est en face. Bah ouais, mais ça c'est de la projection. Et ils intègrent même de l'OLED. Maintenant ils font des phares et des feux stop en OLED absolument sublimissime. Enfin voilà, tout à coup on sent qu'il y a une espèce de migration de technologies qu'on connaissait déjà dans le divertissement grand public, dans l'électronique grand public, et qui arrive dans l'automobile. Ce qui est intéressant évidemment, c'est que les constructeurs, ils ont des vrais moyens de R&D pour arriver à amener ça. On montrait les phares OLED, qui sont des choses mais magnifiques, qui arrivent sur des modèles secrets, mais il se trouve que sur le phare, il y a marqué Audi R8.
Justement, pour parler un petit peu de tout ça, on se rend compte qu'effectivement la voiture, comme on en parle depuis quelques temps, devient un ordinateur sur roue. Et je vais juste, vous allez vous lancer, mais je vais juste résumer les choses que j'ai retenues. D'une part, les constructeurs sont en train de développer des puces spécifiquement faite pour les voitures, notamment Nvidia qui a présenté son Drive PX2 et Qualcomm qui avait son Snapdragon 820A. En fait, ils sont tous les deux optimisés pour ce qu'on appelle le machine learning, le réseau neuronal, et qui en fait analyse les images capturées autour de la voiture pour l'autonomie de la voiture et pour d'autres choses, pour en fait faire de la reconnaissance graphique et pour pouvoir donner aux voitures la capacité plus facilement de connaître leur environnement. On a vu, là c'est un petit peu plus proche de nous et on avait un petit peu l'impression que c'est ce dont on parle depuis des années, l'intégration de CarPlay et de Android Auto qui pour le coup arrive effectivement. Et puis le grand acteur de ce CES, à mon sens, ça a été Ford à ce niveau-là. Ça a été Ford qui développe depuis longtemps des capacités pour l'infotainment et la connexion au smartphone dans leurs voitures, qui ont ouvert encore un petit peu plus leur device link avec ce qui s'appelle leur smart device link. Ah là là, je vais y arriver. Leur Smart Device Link, en fait, c'est Sync, c'est leur système qui existe depuis un moment, pour se connecter avec Apple CarPlay et Android Auto et tous les autres systèmes d'infotainment, comme les systèmes de Toyota, le QNX, qui est un truc de BlackBerry, etc., de manière à pouvoir, je résume très rapidement, hein, mais de manière à ce que les constructeurs puissent continuer à utiliser leur propre système d'infotainment sans vendre en quelque sorte leur âme à Apple ou à Google en les invitant dans leur voiture, mais en continuant à avoir des infotainment compatibles avec les apps de tous les développeurs. C'est-à-dire que si le développeur développe pour le standard Smart Device Link, eh bien, ça sera compatible avec tout le monde, y compris les systèmes propriétaires. En tout cas, c'est l'idée. Et Ford est à l'origine de tout ça. J'ai trouvé qu'ils ont fait des choses très intéressantes là-dedans. Voilà, les choses que vous avez retenues peut-être, Julien, au niveau des voitures du CES.
Alors, clairement, moi, c'est peut-être un truc qui est un peu passé inaperçu, même si tu l'as noté dans le doc. C'est, je trouve que General Motors a fait quand même deux annonces qui sont assez puissante en fait au niveau de l'industrie. La première, c'est son investissement dans Lyft. Donc Lyft, pour en parler rapidement,
c'est un concurrent américain
d'Uber, ouais, voilà. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est pas seulement un investissement, c'est aussi une joint venture qui vont dédier en partie à la recherche pour l'autonomisation des voitures. Et en filigrane, ce qu'on peut voir, c'est l'autonomisation des taxis en fait. C'est-à-dire que au fond, ce que General Motors veut faire avec Lyft, c'est sur 5-10 ans avoir des voitures des taxis complètement autonomes qui vont venir vous chercher sans conducteur, qui vont vous amener d'un point A à un point B sans conducteur.
Et c'est ce dont on discute souvent, pour Uber. On imagine très bien que c'est leur but ultime aussi.
C'est sûrement leur but ultime, mais pour le coup, là, Lyft a un énorme industriel, parce que General Motors, ça parle, en fait. C'est quand même, c'est un des piliers de l'industrie automobile aujourd'hui. C'est une marque qui possède notamment Cadillac, Chevrolet, Opel. Donc c'est quand même des très gros. Et ils ont annoncé également, c'est aussi passé un peu inaperçu, mais c'est un peu dommage, ils ont annoncé qu'ils allaient commencer dès la fin de l'année à installer des systèmes de d'apprentissage, en fait, sur les voitures qu'ils vont vendre dès maintenant. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'ils veulent,
c'est commencer à emmagasiner les données pour que leur voiture apprenne, ouais.
Exactement. Et ça, en fait, c'est fondamental, parce que un Tesla peut le faire aujourd'hui avec un parc de, 17 000, 20 000 voitures sur lesquelles ils ont lancé la bêta de leur autopilote. Un Google peut le faire avec ses prototypes. Mais au fond, qu'un gros comme ça dise, voilà, c'est quand même, quand je dis gros, c'est plusieurs millions de véhicules par an vendus, hein, General Motors. S'ils commencent à collecter les données de tous leurs véhicules sur une année, ils vont avoir un nombre, mais incalculable de data qui vont pouvoir enrichir leur algorithme et en fait qui vont les faire avancer mais extrêmement vite parce qu'on s'aperçoit petit à petit que la réalité du terrain dans le domaine de la voiture autonome c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'on aura beau construire des algorithmes parfaits si on n'a pas un test de terrain qui aura pris la route, qui aura joué avec les aspérités, les tournants, les situations dangereuses, etc. On n'aura finalement qu'un produit de laboratoire.
Là pour le coup, ouais. C'est marrant parce que effectivement on comprend bien l'implication de l'informatique là-dedans parce que on a d'une part peut-être les problèmes de contrat d'utilisation où il faudra bien lire toutes les petites lignes et je suis sûr qu'on aura des scandales du type General Motors capture vos données, regardez dans le contrat, ça dit qu'ils peuvent tout utiliser, c'est sûr que ça va arriver. D'autre part, c'est intéressant parce que ces voitures vont devenir meilleures en conduite autonome une fois que ça sera développé parce que on entendait effectivement des gens qui expliquaient votre voiture, elle va prendre le même virage 4, 5, 10, 15, 40 fois. Et elle va s'améliorer dans la conduite de ce virage à chaque fois. Et en plus, vous allez bénéficier de la connaissance de tous les autres conducteurs qui auront aussi pris ce virage ou d'autres virages. Donc effectivement, ça va pas être seulement un algorithme qui va comprendre comment prendre des virages en général, mais ça va être des banques de données qui vont savoir comment prendre chaque virage dans le monde.
Exactement. Donc, oui. Et ce que General Motors a proposé, c'est de déployer ce système-là sur les voitures dites traditionnelles, en fait. C'est-à-dire, en attendant qu'ils aient la technologie pour les rendre complètement autonomes, ils vont prendre des données, des conducteurs classiques, entre guillemets, et ça va vraiment leur donner une avance qui, je pense, sera assez déterminante. Ouais.
Et toi, Cédric, t'as retenu quoi du...
Oui, plein de choses, mais on savait en fait que au fur et à mesure que les voitures allaient être connectées, soit avec leur propre ligne 4G, soit juste en passant par le smartphone du conducteur, il allait se passer des choses. On pensait d'abord à l'entertainment et on n'a pas tort, c'est-à-dire le fait de pouvoir écouter des podcasts dans sa voiture, etc. Mais en
très,
fait, ça
très important cet aspect, hein, j'insiste.
Absolument crucial, on est bien d'accord. Mais au-delà de ça, ce qu'on est en train de voir justement, c'est que vraiment les briques technologiques qui vont aboutir à tout ça sont en train de se mettre en place extrêmement rapidement. Tu l'as dit avec les annonces de Nvidia par exemple, c'est incroyable. Alors évidemment sur le papier tu vois la photo et tu vois une carte qui ressemble à une petite carte mère et on te dit voilà, ça c'est la carte mère de la voiture connectée de demain. Ouais, ok, d'accord, bon, c'est bien. Et puis tu dis mais c'est puissant comment? Bah c'est puissant comme 15 MacBook Pro. Ah d'accord. Et après tu dis mais je peux pas avoir un ordinateur autour plutôt. Et puis j'ai plus le nom de l'entreprise en tête, mais une boîte qui lançait un lidar. Un lidar, c'est un radar au laser, le truc extrêmement utile pour que la voiture comprenne son environnement en temps réel. Tu vois, c'est un peu le Kinect de la voiture, si je dois schématiser, qui va lui dire où sont les voitures autour d'elle, où sont les piétons, qu'est-ce qui bouge pas, est-ce que c'est un vélo, est-ce que c'est une chèvre, etc. ça, avant, ça faisait partie des éléments un petit peu chers dans les prototypes de voitures autonomes. Et là, ce LiDAR-là, il coûte plus que $250. Donc, tout à coup, tu rentres dans des coûts qui sont tout à fait absorbables dans le prix d'une berline familiale normale. Donc, voilà, on sait que non seulement ce qui est en train de se passer est évidemment passionnant, mais en plus que les choses sont en train de s'accélérer et que tout ça va arriver finalement très vite.
Ouais. Bon, parlons un peu de French Tech, justement. Pardon, je tousse mes poumons. De French Tech, moi, ça fait un moment, ça doit faire 2 ans que la French Tech existe. C'est une sorte, en fait, de marque qui a été créée par le gouvernement français pour promouvoir le secteur technologique français en France et à l'étranger. Alors, il y a une marque, il y a des aides, il y a notamment des startups dont les voyages et les frais sont payés par cette initiative pour, entre autres, le CES. Et bon, moi, en bon américanophile moqueur de mon propre pays, je plaisante, hein, bien sûr.
En bon français cynique, surtout.
Voilà, plus exactement. Bon français qui aime bien se plaindre de tout. Je me disais, bon, la French Tech, c'est gentil, mais est-ce que ça a vraiment un effet de faire cet habillage marketing? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux encourager le développement des startups tout court dans le pays? Alors oui, évidemment, il faut autant qu'à faire, autant faire tout. Et en l'occurrence, la French Tech a montré au moins sur ce CES que c'est quelque chose d'utile, puisqu'on a eu une vraie reconnaissance du secteur technologique français. On a vu des articles dans TechCrunch, dans Fortune, dans plein de choses, des articles qui mettent un coup de projecteur sur cette industrie qui existe depuis longtemps en France. On sait bien, hein, il y a des sociétés très connues comme WeThings, Parrot, Netatmo, etc., etc. Et là, ça a prouvé, enfin, ça a mis tout ce savoir-faire sur le devant de la scène. Est-ce que toi, Cédric, tu l'as ressenti dans les conversations sur place, ou est-ce que c'était une impression qu'on a eue d'ici, ou enfin, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses?
Non, c'est pas usurpé. Hein. On entendait parler français partout. C'en était presque fatigant, pour tout dire.
Et tu disais, mais attends, moi j'ai appris l'anglais, ça sert à quoi que je
sois?
Oui, c'est
ça. Alors justement, plutôt dans les halls des startups que dans celles des grands constructeurs, même si évidemment tout le monde va visiter un peu ce qui se fait à côté. Mais oui, il y a des effets éminents. C'est vrai que le coup de projecteur, il tient à plein de choses. Il tient. Je suis d'accord sur le fait que à la base, ce n'est qu'une marque. Enfin, c'est quand même le commerce extérieur français qui a décidé que ce serait bien de rassembler toutes ces petites startups qui ont en plus assez peu de moyens de communication sous une sorte de bannière unifiée. Et je dois dire que vraiment, ils ont bien fait les choses. C'est-à-dire que même tous les petits stands français de la French Tech avaient une jolie vitre avec un coq rouge. Enfin, tout ça. Enfin, tout était éminemment.
Et il y avait Macron qui était sur place pour vendre le truc.
J'allais y venir. Notre Lady Gaga à nous. non, mais c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Macron. Mais là, c'était, on peut ouvrir le club des Macron fanboys. Enfin, et puis fangirls, hein. Alors, depuis qu'il a la barbe, ça devient, enfin, c'est terrible. Quoi. Moi, je croisais des jeunes femmes qui me disaient « Mais qu'est-ce qu'il est sexy hein ?» Et puis des jeunes garçons aussi qui disaient « Ouais, c'est vrai, il est plutôt beau gosse quand même. » donc voilà, il est venu, il y a eu une conférence animée par un journaliste de TechCrunch où il a répondu à des questions qui étaient probablement arrangées par avance, mais peu importe.
C'est important le marketing. Hein. Si Apple nous apprend une chose et si les sociétés de ce type nous apprennent une chose, c'est qu'effectivement, c'est hyper important de savoir bien se présenter. Quoi.
Ah mais clairement. Et moi, c'est amusant parce que ça fait quoi? C'est mon 12e CES de suite, je crois. Et les 10 premières fois, honnêtement, tu vois, dans ma rédaction à moi, on me disait, tu vas, ah, super, cool, tu vas, c'est, ah ouais, super. Bon, bah, la semaine prochaine, hein. Voilà. Là, maintenant qu'il y a la French Tech et qu'il y a Macron, tout à coup, les intérêts sont différents. Moi, j'ai ahuri à la sortie de la conférence de Macron. Évidemment, il y avait une petite opportunité pour parler au ministre, pour la presse. Et tout à coup, on se serait cru dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée ou à la sortie du Conseil des ministres. C'est-à-dire que tu vois, t'avais, voilà, il y avait nous, il y avait France 2, il y avait BFM, il y avait machin, il y avait tout le monde, il y avait télé, il y avait toutes les radios, Europe, RTL.
Mais ça, à la limite, pour la France, ça se comprend, évidemment. L'intérêt est évident. Mais...
Oui, sinon qu'ils venaient pas faire des annonces particulières.
Non, bien sûr. Mais au-delà de ça pour la France, moi, ce qui me marque encore plus, c'est que ça peut tout à coup intéresser, je pense aux Américains, évidemment, parce que c'est le truc principal, mais ça peut intéresser le monde et mettre la France et la tech sur le devant de la scène en
général. Ça a deux optiques très claires. Hein. Il y a d'abord, évidemment, promouvoir la technologie française à l'étranger, et ça marche. Je veux dire, l'année dernière, il y avait, on disait, 150 exposants français à CIS. Cette année, il y en avait 230. C'est le premier.
Et déjà l'année dernière, c'était un gros, une grosse partie du truc.
Et deuxième contingent derrière les États-Unis, les Américains, ils se grattent la tête. Tu vois, ils sont plutôt habitués à voir des Chinois, des Japonais, des Coréens, etc. Non, là quand même, il y avait vraiment du français partout. Et l'autre, évidemment, l'autre angle, c'est attirer les investissements en France. Il y avait des très jolis petits plans pamphlets que distribuaient le commerce extérieur sur France is startup friendly, enfin sur plein de choses, sur tu vois les intérêts qu'il y a à s'installer en France, nos magnifiques infrastructures, notre système éducatif, un système de santé merveilleux, etc. Et le fait qu'il y a maintenant des vrais hubs d'innovation partout en France, dans plein de disciplines. Non, c'est vrai que c'est une visibilité à laquelle on n'était pas du tout habitué. Jusque-là, on avait les pavillons du Bifrance dans chaque salon, etc. Bon, c'était pas mal, mais c'était à l'égal de ce qu'on voyait ailleurs.
C'est ça. Enfin, c'était une trentaine de startups, voire une cinquantaine, par exemple.
Et puis, c'était exactement comme faisait Taïwan, Israël. Enfin, tu vois, c'était chacun avait son pavillon national. Là, il y a un effet. Attention, les Français débarquent quand même.
Bah, espérons que ça portera ses fruits. En tout cas, c'est sûr que les coups de projecteur ont été mis et ont été très visibles, quoi. Au-delà de ça, est-ce que justement il y a eu des choses qui vous ont intéressé chez ces startups françaises qui ont été présentées, peut-être, Julien?
Ouais, c'est amusant parce que pour le coup, c'est pas vraiment une startup, mais quand je pense en fait gadget, j'essaie toujours de me dire, est-ce qu'il y a des gadgets qui pourront changer ma vie de manière profonde et enfin de manière assez radicale en fait. Et au fond, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le petit bouton de la Poste. Ça n'a rien à voir avec une startup, c'est vraiment notre grosse machine nationale. Mais au fond, quand tu me dis, je vais t'apporter un bouton à mettre dans ta boîte aux lettres, tu vas appuyer dessus, tu vas mettre un colis à l'intérieur, et un facteur va venir le prendre, il va venir mettre...
Explique-moi de quoi il s'agit, parce que moi, je ne l'ai pas vu.
Le concept, c'est assez simple, c'est un espèce de petit bouton aimanté que vous fixez donc à l'intérieur de votre boîte aux lettres. Il est relié à une application sur votre smartphone. Par exemple, vous devez envoyer un colis à quelqu'un, vous allez entrer toutes les coordonnées sur votre smartphone, vous allez payer depuis l'application, vous validez, vous mettez votre colis dans la boîte aux lettres, vous appuyez sur le bouton, et c'est terminé. C'est-à-dire que maintenant la Poste va prendre en charge tout le reste du parcours de votre colis. C'est-à-dire qu'elle va savoir où il doit aller sans que vous ayez rentré l'adresse, parce que tout est informatisé grâce à l'application. C'est le facteur qui va se charger de coller tous les bons et les codes-barres. Il va l'emmener à la Poste. La Poste va se charger de le livrer, etc. C'est-à-dire que vous ne faites plus la queue. Vous avez plus de papier à imprimer. Enfin, tout est numérisé en fait. Et je me suis dit, ce genre de truc, parce que évidemment on vend pas mal de choses maintenant, de particulier à particulier, on vend des habits, on vend des trucs techno quand on les accumule, voilà, on essaie de s'en débarrasser. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce moment pénible qui est d'aller faire la queue dans une poste où on sait pas trop comment ça va marcher, on attend que les gens devant aient compris comment les nouvelles machines fonctionnent. Voilà, c'est toujours hyper pénible. Et là, je me suis dit, avec un bouton comme ça dans une boîte aux lettres, mais ils vont changer en fait une pratique qui est juste insupportable en fait.
Non, c'est vrai, c'est pas bête. À la limite, le bouton dans la boîte aux lettres, c'est presque un gadget, parce qu'on pourrait appuyer sur le même bouton sur le smartphone, mais techniquement, ça veut dire qu'effectivement le truc est bien mis dans la boîte aux lettres et voilà.
Ouais, ça, il est là pour valider en fait le bouton. J'ai lu que quand on appuyait dessus, il y avait une petite diode qui s'allumait. Si elle était rouge, c'est qu'il manquait des trucs à faire sur le smartphone. Si c'était vert, c'est bon, on pouvait partir.
En fait, c'est pas bête.
Confirmation, ouais. En gros.
C'est pas bête. Ouais, non, c'est intéressant.
J'ai trouvé ça assez incroyable, alors que c'est tout à fait banal, mais c'est vrai que je me suis dit que, je sais pas, c'est comme le paiement sans contact avec nos cartes bleues, quoi. On s'aperçoit pas que ça existe, mais au fond, maintenant, quand on fait ça, ça va tellement vite, ça a changé, en fait, notre... Ouais.
C'est vrai que ça peut avoir des implications importantes, parce que t'as tout à fait raison. Il y a le moment pénible où il faut faire le paquet, imprimer le machin, l'emmener jusqu'à la poste. Alors que, si on a juste à la mettre dans la boîte aux lettres, c'est bien notre boîte aux lettres, dont il s'agit, dans notre immeuble. Et donc faire ça, ça peut effectivement développer toute une partie d'une nouvelle économie qui peut être hyper intéressante. Moi, un truc qui... Pardon, vas-y, Julien.
Non, oui, c'est ça. Et puis, c'est juste à noter, c'est connecté du coup sur les réseaux basse fréquence aussi, qui sont hyper développés en ce moment en France. Voilà.
Ouais. Donc, Moi, un truc qui m'a pas mal plu, c'est Parrot, justement, qui a présenté un nouveau drone. Alors, des drones, il y en a plein, hein. C'est toujours un des domaines hyper intéressants, mais c'est leur Disco, qui est un drone avec aile fixe, qui peut aller jusqu'à 50 miles per hour. Ça fait quoi, 75 km heure,
80.
C'est ça ? 80. 80. Et qui peut voler pendant 45 minutes. On est très loin des 10, 15, 20 minutes des drones habituels, que j'ai trouvé hyper intéressant, quoi. Moi qui suis pas hyper drone, mais qui m'y intéresse un tout petit peu depuis notre épisode avec Ben en fin d'année dernière, j'ai trouvé ce drone-là, qui est, c'est une sorte de petit avion, on dirait même du polystyrène tellement il est léger, on le
c'est
jette.
C'est du polystyrène.
Ouais, bah voilà.
Enfin, ça ressemble, oui. C'est, ouais. Pense à la masse volumique du polystyrène, c'est très léger.
C'est ça, et c'est super beau, et ça, enfin, je sais pas, c'est un drone qui est pas un quadcopter, qui est une aile. Et ça a l'air, enfin, on a vu évidemment des images et des trucs comme ça qui peut tourner. C'est encore une petite avancée en plus dans ce domaine. Moi, je l'ai trouvé assez intéressant.
Ah, c'est pas une petite avancée parce que là, il faut reconnaître à la fois le côté absolument extrêmement gonflé de Parrot et le génie d'Henri Sédou. Moi, je me souviens du premier CIS où ils ont présenté le premier drone. Alors évidemment, c'était une sorte de hold-up médiatique parce que c'est, tu vois, ça marche bien en télé, tout le monde en voulait, etc. Cette année, les drones à CIS, c'était toute une partie d'un hall. Enfin, il y avait vraiment toute une zone des drones avec des modèles, des petits, des grands, des français, des pas français. Et ouais, moi,
on avait
depuis longtemps,
des chers, des pas chers. On a vu le Unique à 1 800 $, un truc comme ça. Voilà. Enfin, des trucs de fou, quoi.
Ah non, il y a des trucs extraordinaires. Et depuis un certain temps, je me demandais comment Parrot allait continuer à innover. Tu vois, c'est-à-dire que ils ont lancé des drones plus petits, moins chers, des trucs un peu plus vraiment très très ludiques, très simples. Voyant la profusion de choses qui arrivaient sur le marché, je me demandais ce qu'ils allaient faire. Et là, ça y est, ils ont compris. Enfin, c'est pas qu'ils ont compris, c'est qu'ils ont fait un truc. En fait, ils y travaillent depuis 3 ou 4 ans. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais c'est un drone. Voilà, une seule hélice, ça ressemble clairement à un avion. Et quand tu le pilotes au travers de ton casque de réalité virtuelle, tout à coup, tu as vraiment l'impression de voler, mais pas voler comme un hélicoptère, voler comme un oiseau.
Il a un écran dans le nez, enfin pardon, une caméra dans le nez avec une stabilisation optique incroyable, une caméra 14 mégapixels. Effectivement, il peut revenir à la, entre guillemets, maison tout seul s'il y a un problème. Et puis 45 minutes.
Aussi.
Voilà, on peut lui déterminer un chemin à faire avec notre tablette, et puis il a 45 minutes de vol. Là, vraiment, c'est un truc. Enfin, là, ça me donne vraiment envie, quoi. C'est des trucs de fou, quoi.
Il y a juste deux inconnus. Bon, il sort cette année, hein, ça, on me l'a promis les yeux dans les yeux. L'inconnu, c'est le prix.
Ouais, il y en a une deuxième aussi, c'est l'interdiction de faire voler ce genre de choses en France, parce que la législation sur les drones, je crois pas que...
Alors
moi,
vrai.
Ce qu'on m'a dit, les premiers retours de jury
compliqué.
Que j'ai eu, c'est que c'était interdit. Hein. Un truc pareil...
C'est pas en soi interdit, la question c'est où vas-tu le faire voler. C'est-à-dire que si tu l'emmènes pour le faire voler sur une plage bretonne en hiver, il va pas t'arriver grand-chose. Si par contre c'est pour aller à Saint-Tropez en été, là ça va être un autre souci. et si c'est pour survoler une centrale nucléaire ou un camp militaire, c'est encore un autre problème. mais j'imagine juste... T'imagines ça à Paris, tu survoles juste, je sais pas, allez, le 7e arrondissement. C'est-à-dire,
ouais.
tu te fais tous les ministères de la rue de Grenelle, l'école militaire et les Invalides. Nickel. Après, il faut juste courir et la BRI est chez toi.
C'est ça. Bah, donc, alors, moi, j'ai vu que des photos, mais tu vas peut-être me le confirmer, Cédric, mais c'est immense comme truc. Enfin, c'est gros, pour le coup.
Ça fait quoi 60, 75 centimètres de...
Ouais,
de...
c'est ça. Tu peux le tenir d'une main parce que ça pèse, je sais plus si c'est 400 ou 700 grammes. Je crois que c'est 700. Mais c'est pas lourd. Mais allez voir les vidéos. Il s'appelle le Parrot Disco. Je sais pas pourquoi Disco, là encore, c'est le branding d'Henri Sédou. Je refuse de comprendre. Les images que ça a l'air de sortir sont proprement hallucinantes. Alors après, ce sera pas forcément pour tout le monde. Et je pense que le tarif aussi fera la différence. C'est-à-dire que, et pour tout dire, moi, je leur ai demandé, ils ont pas encore décidé du tarif. Je dis bah c'est simple, vous le mettez à 199 €, vous en avez en vente des millions. À mon avis, le bon prix c'est plutôt 399 ou 499, mais voire plus parce qu'évidemment il y aura aussi des accessoires, la télécommande qui va très loin, etc. Mais eux ont pas choisi. Henri Sédou me disait avec une malice dans le regard, bah oui, mais je peux aussi le mettre très très cher et en vendre un peu moins, mais gagner beaucoup d'argent. Ouais. Donc voilà.
Bah, toute
il y a
façon, c'est
une vraie inconnue. Mais magnifique. Juste une chose, là aussi, il se passe des trucs qui vont encore accélérer le mouvement. Moi, je suis allé voir la suite parce qu'en plus, il y a des gens qui ont même pas de stand, mais ils ont des suites dans les hôtels pour aller voir leurs trucs de ST Micro, le franco-italien fabricant de composants. Alors, c'est drôle parce qu'ils se sont aperçus depuis le début que les fabricants de drones venaient chercher chez eux des composants, tu vois, les capteurs, tout ce qui permet de stabiliser, de comprendre où tu te trouves dans l'espace, etc. Mais qui étaient des choses pensées à l'origine pour l'industrie, pour la téléphonie mobile. Et ben, ils ont bien compris parce que là, tout à coup, ils sortent des plateformes entières dédiées aux drones. Par exemple, des composants qui vont permettre de gérer la gestion de l'énergie et la gestion des moteurs, des multicoptères, plus évidemment le positionnement, le GPS, etc., etc. Donc, tout à coup, si tu es fabricant, ça va devenir assez simple d'aller juste chercher des plateformes intégrées qui vont te permettre après de développer des machines qui seront moins chères, plus efficaces, avec plus d'autonomie. Donc, je pense que là, pour le coup, CIS 2017 sera super intéressant.
Oui. Ok, parlons un petit peu de réalité virtuelle maintenant. Il y a eu quelques trucs présentés au CIS lui-même. Hein. Samsung a fait des annonces, il y a eu des trucs. Mais à mon sens, il y a le nouveau modèle du HTC Vive, etc., etc. Mais à mon sens, évidemment, le truc le plus intéressant, on s'écarte un tout petit peu du CIS, c'est le Oculus Rift qui a été mis en vente au moment du CIS. Ils ont annoncé la date de mise en vente sans annoncer le prix. Et ensuite, deux jours plus tard, quand il a été mis en vente, enfin en précommande plutôt, le prix est tombé et c'était une surprise pour beaucoup de gens, une mauvaise surprise, c'est-à-dire qu'il coûte $600 aux États-Unis, 700 € en Europe, $600 sans TVA, donc c'est un petit peu différent, mais 600 € pour la France, plus à peu près 50 € de frais de port, ce qui veut dire que la bestiole coûte entre $650 et 750 € en fonction de là
certains
où on habite.
Certains disent sans la douane hein, aussi.
Oui, sans la douane et sans le très gros PC de gamer qu'il faut y connecter. Hein. Oui.
Voilà, alors c'était... Pour ceux qui ne savent pas, c'était une mauvaise surprise parce qu'on l'attendait aux environs du prix du kit de développement qui était à $350 ou 350 €. On se disait, bon, ça va peut-être un petit peu monter, 400, peut-être 450. Mais là, c'est ce prix très élevé qui a fait se poser beaucoup de questions à beaucoup de gens. Alors, ce qu'ils expliquent, eux, chez Oculus, certainement avec raison, Palmer Luckey a répondu à beaucoup d'interviews. D'abord, il a dit qu'il avait merdé sur la présentation, enfin, sur les attentes du prix. Il avait dit ça sera plutôt dans le prix du kit de développement à l'époque où les gens confondaient la presse grand public confondait le casque Rift et les PC qui coûteraient 1500 € ou $1500 pour qu'il puisse faire tourner le casque. Donc il disait on sera plutôt à la louche dans le prix du kit de développement, mais évidemment les gens ont pensé à $350. Du coup il a dit qu'il s'était planté. Par contre, son explication, c'est que ils ont dû développer du matériel complètement customisé pour cet appareil, c'est-à-dire deux écrans OLED à très haute résolution avec une très grande fréquence de rafraîchissement pour éviter les problèmes de nausées, etc. Donc ils ont fait le choix de la grande qualité plutôt que le choix du prix, une chose qui a sans doute été rendue possible avec le fait que Facebook soit derrière maintenant également. Mais voilà, ils ont dit, en plus ils se sont vendus immédiatement, visiblement quasiment tous, on sait pas combien ils comptaient en produire, mais ils sont tous partis. Donc ce qu'ils disaient, c'était même si on l'avait vendu moins cher, ça aurait pas fait qu'on en aurait vendu plus, donc à la limite c'était même pas tellement un problème. Ce qui est clair par contre, On ne sait pas combien ils en ont vendu, effectivement. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que encore plus qu'avant, on est dans un marché d'early adopteurs complètement. Là, on est vraiment chez les tout premiers qui vont acheter pour voir ce que ça donne et qui sont très... C'est pas du tout, du tout, encore moins qu'avant le grand public. Pour moi, ça met Sony dans une position beaucoup plus avantageuse avec son PlayStation VR, qui en plus fonctionne sur la PlayStation 4, qui a une base installée énorme qui approche les 40 millions de consoles, alors que selon Nvidia, le nombre de PC qui peuvent faire tourner de la réalité virtuelle est de seulement 13 millions. Donc on a de 13 millions de bases installées à presque 40 millions, on va dire 35 millions de bases installées. C'est important pour les développeurs et pour l'écosystème. Ça ne veut pas dire qu'ils vont en vendre plus. Bien sûr, la qualité du PlayStation VR sera moins importante que celle d'un Oculus Rift, mais si ils le vendent, là non plus on n'a pas le prix encore, mais s'ils le vendent autour de $300-400, ça fera un total pour un système réalité virtuelle PlayStation de, allez, $700, alors que avec un Oculus Rift, il faut compter entre le PC et la machine minimum $1,500. Le choix est vite fait pour beaucoup de monde. Est-ce que je me plante complètement ou...
Non, je pense que t'as bon partout. Je pense que c'est une. Il y a des gens pour qui c'est une très bonne nouvelle et d'autres pour qui c'est une très mauvaise. Ceux pour qui c'est une très mauvaise nouvelle, c'est les éditeurs qui depuis 2 ans investissent dans des projets de jeux VR, etc. sur PC et qui tout à coup voient que le parc installé risque de quand même pas être bien lourd.
À mon avis, ils vont se réorienter sur le. Enfin, ils vont aussi développer sur PlayStation, à mon avis.
Exactement. Ceux pour qui c'est une excellente nouvelle, tu l'as dit, c'est PlayStation, mais aussi c'est-à-dire que l'arrivée d'Oculus pour de vrai enfin sur le marché va permettre à plein de gens au moins de l'essayer et va leur donner de l'appétence du truc. C'est-à-dire que d'un coup, ils vont dire « moi, je veux un truc comme ça ». Donc, c'est les gens pour qui c'est une super nouvelle, je pense à Samsung avec leur Gear VR qui est en fait le casque d'ailleurs co-créé avec Oculus mais qui fonctionne en utilisant un smartphone de dernière génération comme écran, comme processing, comme tout ça. Moi, j'ai essayé. Bon, c'est pas un Oculus, très clairement. Non, je suis pas d'accord. On fait quand même plein de trucs avec. C'est vraiment pas si mal que ça. Et tout à coup, ça coûte 200 balles, quoi.
En plus non, mais ça coûte, déjà. Mais en plus du téléphone. Pour moi,
mais tu l'as déjà, le téléphone. Il peut te servir à autre chose.
Ah oui, si tu l'as, effectivement. Si tu l'as, oui, c'est sûr, oui.
Donc voilà, ça va au moins créer de l'appétence, mais de fait, c'est pas ça qui va emporter le marché tout de suite. Et c'est vrai que oui, la déception, elle est massive parce que ça fait quand même juste 2 ans au moins qu'on attend, quoi. Et qu'on pensait que ça irait bien plus vite que ça. Du coup, oui, évidemment, le prochain truc qu'on attend, c'est PlayStation VR, quoi.
Ouais, le prix du PlayStation VR. Julien, un avis sur la chose?
Ouais, moi je pense que Palmer Luckey a fait une mauvaise com en fait autour du produit et même après en fait. Tu parlais de avant, c'est vrai qu'il a eu un peu de mal, mais pendant l'annonce du prix, il a été aussi pas super bon parce qu'il a eu la réaction un petit peu naïve de se sentir attaqué et il a répondu assez sèchement, je crois, aux gens, aux commentateurs qui trouvaient le prix trop élevé. Il a répondu en fait en gros c'est pas de notre faute, vous arrêtez pas vous êtes que des gros râleurs, quoi. Et c'est pas vraiment, je pense, la posture à adopter quand tu sors un produit comme ça, et ça va lui faire un retour de flamme qui est pas génial pour sa société. Et dans le même temps, en fait, ils ont eu le courage, après c'est sûrement leur plan depuis très longtemps, d'être les premiers en fait à annoncer un prix. Et du coup, je pense que l'industrie va pouvoir apprendre de cette annonce. Et malheureusement pour eux, personnellement, je vois pas Sony ou même HTC avec Valve annoncer un prix qui est similaire. Je pense qu'en fait, ils vont profiter du truc pour ne serait-ce que symboliquement le faire moins cher. Et pour le coup, ils vont profiter d'un effet négatif qu'il y a autour de l'Oculus Rift pour mettre en avant leurs produits. Et je pense que du coup, ça va desservir Oculus et servir les autres. Je pense pas que la réalité virtuelle s'est pris un gros coup avec cette annonce, hein. J'y crois encore, et pour avoir essayé l'Oculus Rift en version de démo sur la version développeur sur un jeu comme Yves Valkyrie, je voulais plus en sortir, hein. Je l'ai dit plusieurs fois dans différents podcasts et même par écrit, je ne voulais plus sortir de ce casque. Je trouve ça mais fantastique.
C'est sûr. Oui, pardon,
voilà.
Fini.
Mais voilà, c'est que je trouve que voilà, ils ont été les premiers, ils ont abattu leurs cartes. Maintenant, la concurrence a un champ libre en fait.
Oui, tout à fait.
Ça va en profiter.
Alors, le casque de HTC, enfin le Vive qui est développé en collaboration avec Valve, leur nouveau modèle a une caméra intégrée au casque de manière à ce qu'il puisse vous afficher dans la visière ce que vous voyez dans votre pièce, parce que on sait que le Vive a des petits totems qui vous repèrent dans l'espace et donc vous pouvez vous déplacer dans la pièce. Le truc, c'est que ça coûte plus cher, à mon sens, avec les totems, etc., ça coûte un peu plus cher. Et ils ont des nouveaux contrôleurs. Ah oui, entre parenthèses, on l'a pas dit, mais le prix de l'Oculus Rift n'intègre pas leurs contrôleurs Touch qui ont été décalés à la deuxième moitié 2016. Donc c'est juste avec une manette de Xbox One classique.
Ouais.
Donc c'est vraiment... Bref, pour moi, le HTC Vive va avoir du mal à faire moins cher. Et encore une fois, je pense que Sony va au contraire mettre le paquet et essayer de subventionner autant que possible le prix de son casque, le vendre aussi peu cher que possible de manière à s'installer et à profiter de la dynamique de la PlayStation 4 et à s'installer autant que possible. Il y a plein de gens qui disent « Ah oui, mais les accessoires de console, ça marche jamais parce que ça fractionne le marché. » Mais c'est pas du tout la même chose. On peut pas comparer. C'est pas comme Xbox avec ou sans Kinect ou je sais pas moi Mega Drive avec ou sans X32 Super Force machin, ça n'a rien à voir. Comparer les deux, c'est ne pas comprendre la nature de ces deux produits, quoi. Donc on verra comment ça se passe. Moi, je serais pas surpris de voir une annonce HTC Vive. Je pense qu'il sera autour des $500 aussi. Ça me paraît très étrange qu'il soit moins cher. Minimum 450. Mmh. Mais je pense que le PlayStation VR sera en dessous de $400. Et voire peut-être même moins.
Donc, je suis d'accord, ouais.
On verra. On verra. Ensuite, les catégories télévision, PC, technologie portée, etc. Est-ce que vous avez des choses que vous avez retenues spécifiquement dans tout le reste, en fait, du CES, que ce soit ça ou autre chose? Enfin, je ne sais pas. Concluons ce CES. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces autres domaines dont on n'a pas parlé, Julien?
Alors, assez rapidement, et au risque de pas être original, Razer, avec son Ultrabook, qui a une carte graphique, donc un GPU, en fait, qui est connecté, un GPU externe. En fait, Razer joue la carte du, on a un ordinateur hyper stylé, avec un design qui tue et qui est hyper léger, que vous allez pouvoir embarquer partout pour bosser. Vous rentrez chez vous, où vous avez votre GPU amovible au bureau, vous le connectez, ça devient une machine de gamer. Je pense que ils peuvent séduire un public avec ça. C'est une idée qui fait son chemin depuis pas mal de temps. Il y a pas mal d'essais qui ont été faits. Là, ils sortent un produit commercial qui a l'air de tourner et qui a l'air de répondre en fait à la problématique de comment on joue sur portable. Parce que effectivement, on s'est rendu compte petit à petit que on pouvait pas mettre une carte graphique dans un laptop. Du coup, moi, je trouve que c'est vraiment une super idée que Razer a eue. Et s'il y avait un truc à retenir en PC, c'est vraiment vraiment celui-là de mon côté.
Ouais. C'est le Blade Stealth à $1000. Je crois que ça inclut pas le GPU à côté, mais $1000 pour l'Ultrabook, ouais. qui est assez beau, effectivement.
Moi, pour te dire, j'ai pas vraiment vu un PC là-bas, en fait, pour te dire. Mais mais vraiment en passant, j'ai pas trop fait attention. J'ai vu deux choses qui étaient d'ailleurs chez Samsung, deux tablettes. Une qui est dans un format, tu vois, de Surface Pro, de Surface à la Microsoft, et une autre qui est une tablette qui s'appelle, ça me reviendra, de très très grande dimension. C'est un peu, souviens-toi, quand HP faisait des PC de cuisine. Ben là, ils ont fait une tablette qui est pas forcément une tablette de cuisine, mais qui est plutôt une
Elite Book Folio G1.
ça ne doit pas être ça.
Si, si. C'est une tablette. Ah non, c'est peut-être un.
Non.
Ah non, pardon. Ça, c'est
Elite
un.
Book, ça ressemble pas à du Samsung.
Oui, hein, oui, excuse-moi. C'est HP, ça, c'est le HP. Mais parce que tu parlais du HP. Oui, c'est le
PC.
Oui.
Oui, bien sûr. Pardon. Et une autre grande tablette qui est plutôt une tablette Android qui ferait aussi télé, en fait, pour tout dire, qui est un truc pensé pour chambre d'adolescent ou chambre d'étudiant, etc., que je trouvais gonflé en termes de format et finalement pas inintéressant, mais avec un écran qui fait, je sais plus, c'est 18 ou 19 pouces. Enfin, tu vois, là, on est vraiment dans du très, très grand format. C'était aux alentours de $800, donc c'est pas totalement excessif. Mais alors, te faire tout le reste du CES, ouais, c'est qu'en fait, comment te dire
les deux, trois trucs que vous avez retenus, oui, la télé, on peut en dire deux mots, c'est vraiment
Oui. Bah c'est, faut dire que historiquement c'est quand même le salon de la télé. Enfin tu vois les grands exposants sont les exposants de la télé, les Samsung, LG, Sony, Panasonic et les autres.
Pardon, ouais, le Samsung c'est pas le Galaxy Pro Tab Pro S dont tu voulais parler ?
C'est fort probable.
Mais non, celui-là il fait que 12 pouces, c'est Free French.
Alors c'est justement la version Surface Pro.
Oui. D'accord.
Mais non, il y a
bon, pardon. Revenons à la télé. Revenons à la télé.
Ouais. Moi, il y a des choses qui m'ont agréablement surpris parce que la télé c'est quand même un business très d'innovation incrémentale. Tu vois, c'est toujours un peu mieux que l'année dernière, mais avec des bons technologiques qui sont plus rares. Moi, c'est tout bête. Sur le côté du stand LG, ils avaient une démo avec des écrans 4K pour regarder de la 3D avec des lunettes passives. Et là, tout à coup, ça m'a frappé comme une réalisation. C'est genre, ah bah, ça marche, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, avec des lunettes passives, en gros, tu perds la moitié de la résolution, hein. Donc, c'est-à-dire que, au lieu de switcher une frame par œil, bah, on switch la moitié de la résolution sur chaque œil. Bah,
évidemment. Et de la luminosité, en plus.
Oui, bien sûr. Bah oui, mais du coup, quand tu regardes du cinéma et que c'est à partir d'un écran 4K, bah tu perds beaucoup moins. Et là, ça marche, ça flique pas, ça fait pas mal aux yeux. En plus, c'est bien avec des lunettes passives, tu peux rester une créature sociale. C'est-à-dire que tu peux te retourner vers ton voisin et lui parler sans avoir l'air d'un cyborg. Donc ça a quand même quelques intérêts. Et ça veut dire qu'il reste quand même un futur pour la 3D. Moi, je compte encore sur les doigts d'une seule main le nombre de fois où j'ai utilisé la 3D sur ma télé qui sait le faire pourtant depuis 4 ans. Y a ça, des écrans absolument sublimissime où tu atteins une épaisseur de c'est 3 mm, 10 3 quarts de crédit empilé, bah ça fait 3 mm.
Des annonces de Samsung sur la SUHD, la super ultra HD, il y a des alliances qui se forment pour la 4K, enfin pour la UHD effectivement, des écrans Samsung là encore avec Tizen qui inclut en fait ta télé Samsung qui inclut des apps qui vont te faire une sorte d'expérience deuxième écran sur ton écran pour avoir par exemple dans les trucs de sport les statistiques, les infos, etc. Le PS Now, le PlayStation Now pour le service de streaming de jeux de Sony qui te permet de jouer à beaucoup de jeux aujourd'hui avec un abonnement, etc. etc. Y a des trucs qui m'ont un petit peu donné envie quand même là-dedans, moi.
Ah bah, il se passe des choses énormes sur les plateformes, c'est-à-dire LG aussi a maintenant, tu sais, ils avaient racheté BIOS, etc., et qui sont en train de mettre à toutes les sauces, à la fois dans les télés et même dans l'électroménager. S'il faut que je sorte un ou deux trucs rigolos, j'ai bien aimé bêtement le robot aspirateur de LG que tu peux contrôler en réalité virtuelle, enfin en réalité augmentée avec ton smartphone, c'est-à-dire que tout à coup, au travers de la caméra du smartphone, tu regardes ton salon de 80 mètres carrés, bien évidemment, et tu cliques en disant, tiens, tu peux aller faire sous la table si tu veux là-bas, mais il faut d'abord reconnaître la forme avec la caméra, la forme de ton aspirateur, enfin c'est pas d'une praticité immense,
mais c'est marrant.
Et une fois que t'as fait ça, tu peux aussi regarder ce que voit la webcam de l'aspirateur, donc c'est évidemment passionnant.
Ouais.
Ça devient une petite surveillance. Non, technologiquement, ce qui est important, c'est dans les écrans, tu l'as dit rapidement, mais Samsung a sorti des écrans courbes à LED. C'est pas l'OLED là pour le coup, c'est pas une feuille qui là aussi a une épaisseur millimétrique. Ça veut dire que le LED n'est pas mort, loin de là. Et il y a deux choses moi que j'aurais aimé voir. Il y avait un écran flexible de LG, dont même les gens de LG disaient...
Ça, on en a tous les ans. Hein, mais...
Ouais, mais là, ça avait l'air pas mal. Mais même les gens de LG disaient... Nous, on l'a pas vu. et alors, il paraît, c'est énorme, parce que il se trouve que mon premier rendez-vous à la première heure de l'ouverture de CES, c'était LG, et le directeur marketing français, charmant, me dit, attends, viens, il y a une secret room, on va aller voir la secret room. Je dis, ah bon, t'es sûr qu'on peut aller voir la secret room avec une caméra? Ouais, on m'a dit que ouais. Bon, le temps qu'on y arrive, on nous a dit, ah, mais en fait, non. Vous pouvez pas aller dedans. Et alors, la chose qu'il y avait dedans, mais que je n'ai pas vu, mais au moins on me l'a raconté, ce serait justement un écran ultra, ultra, ultra plat et ultra fin que tu pourrais déplacer sur ton mur comme un cadre photo, quoi. C'est-à-dire que avec tout le reste sans fil, enfin voilà. Donc je pense que ça, ce sera pour CES 2017. Mais c'est vrai qu'il se passe plein de trucs, même sur l'électroménager. Enfin il y a une espèce de convergence parce qu'évidemment les outils et les plateformes sont de moins en moins chers. Mmh. C'est facile maintenant d'intégrer une webcam à n'importe quoi. Dans le nouveau frigo de Samsung, il y a des caméras à l'intérieur.
Oui, imagine pour voir ce qui reste dans ton...
voilà.
Ce dont tu parlais tout à l'heure.
Est-ce qu'il me reste de la mayonnaise? Bah attends, je vais regarder sur mon smartphone ce qui se passe à l'intérieur et en plus je vais pouvoir pouvoir draguer, dropper virtuellement des petites pastilles sur les aliments qui sont dans mon frigo pour dire voilà, ça c'est la date de péremption. Enfin non, c'est une histoire de fou. Ouais. Et on parlait des drones, je voulais quand même d'un mot parler de l'énigme de ce CIS, qui est un drone signé par une société chinoise qui s'appelle Yihang et qui est le premier drone à passager, bien évidemment.
Ah, ça j'en avais pas entendu parler par contre.
Ah bah oh. il est forcément un peu plus gros que les autres. c'est un pluricoptère avec des doubles hélices, etc. Magnifique truc sur le stand. Évidemment, la grosse frustration, c'est comme les autres drones du salon, il ne volait pas parce qu'on pouvait pas le mettre en cage. Sinon que là, voilà, tu peux mettre un passager de 90 kilos à l'intérieur. Et les commandes à l'intérieur sont assez simples, il y a décoller et atterrir. Et entre-temps, c'est la machine qui gérerait tout. Et moi, j'avais avec moi, il y avait des ingénieurs américains qui étaient en train de regarder en disant mais attends, il n'y a même pas un capteur de rien, un capteur de collision, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas une caméra
c'est
qui
les Chinois, quoi.
Les obstacles, enfin, c'est chinois, quoi. Et du coup, tout le monde se demandait, mais c'est pas un hoax,
c'est un coup de com', ouais. C'est vrai qu'on s'est posé la question.
Ça ressemble plutôt à un coup de com', même s'ils avaient une belle brochure qui disait non, dans les villes où ce sera déployé, nous aurons des centres de contrôle qui permettront, en gros, de définir pour chaque machine un plan de vol virtuel pour pas qu'il y ait de collision avec les immeubles, tout ça, et puis les autres drones. Mais c'est vrai que moi, dans ma chambre d'hôtel qui était un peu en hauteur, je me rêvais à avoir un truc comme ça. Imagine, tu traverses Las Vegas de nuit avec ton drone. Enfin, ça fait absolument rêver.
À tous les trois étages, tu as le drone iPad, l'équivalent du hélipad pour sortir sur, tu vois, un petit peu le truc qui sort de l'immeuble. Pas mal.
Donc ça fait rêver, mais je pense qu'on était un peu en avance sur le. Tu vois,
A priori, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison que c'est. Enfin, en même temps, c'est comme les voitures volantes.
Monsieur, mais
pas de raison.
Nous sommes en 2016. Où est mon robot majordome et où est ma voiture volante?
Exactement. Mais
écoute, il y avait quelques trucs qui m'ont marqué aussi. Bon, au-delà de la caméra de sport de Nikon qui fait du 360 des deux côtés en 4K, machin, il y avait des services de streaming de 4K lancés par Sony, un truc qui s'appelle Ultra pour ses télévisions. Il y avait un hoverboard. Je déteste ce nom, c'est pas un hoverboard, c'est juste des trucs avec des roues, quoi. Voilà.
Bon, t'as deux roues et c'est toi qui tiens l'équilibre.
Voilà.
Hein, la belle affaire.
Il y avait un hoverboard, en fait, où tu pouvais t'asseoir. Il y avait un truc qui montait pour t'asseoir dessus et qui, quand tu descendais du truc, se transformait en robot. Il y avait le truc qui se dépliait, la selle qui se dépliait et qui avait, en fait, des caméras et les yeux d'un robot. C'était
débile, Segway, évidemment. C'était Segway, ça, qui a montré ça.
C'était Segway, je me souviens
pas. Oui, bien sûr. Ouais, c'est à la conférence d'Intel qu'ils ont montré ça. Et en fait, ils ont fait ça en partenariat. Tu sais que Segway a été racheté par un industriel chinois. Et qui a aussi Xiaomi, je crois, en investisseur. Et du coup, ils ont une R&D maintenant qui est assez détonnante et qui fait des trucs un peu absurdes, mais très drôles. Et c'est vrai que ce petit robot, ce Segway qui se transforme en un petit robot, qui est entièrement modulable, qui a des ports qui sont complètement ouverts pour lui connecter des extensions, etc. C'est vrai que c'était assez amusant après à voir ça va se développer, mais ils ont une idée d'écosystème autour de ce truc. Ouais.
Voilà, donc il y avait ça, il y avait effectivement des systèmes de caméras hyper complets en 4K.
Et on n'a pas parlé d'un truc un peu amusant aussi, c'est le retour de certains produits old school. Alors je sais pas si tu en as vu, Cédric, mais Kodak a lancé une caméra Super 8. Par exemple. C'est assez incroyable.
On se craque la tête quand même dans l'ensemble.
Ouais, on se dit, tiens, c'est bizarre, mais pour le coup, il y a aussi, je l'ai vu passer, Sony, qui a lancé une platine, donc vinyle, avec un convertisseur haute définition. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant de voir que Sony lance une platine comme ça aujourd'hui, donc très haut de gamme. Quand on a vu il y a une semaine les meilleures ventes Amazon au niveau mondial pour Noël, c'était une petite platine vinyle à 50 balles avec des haut-parleurs, en fait. Donc,
c'était pour transférer tes disques vers du MP3. Là, évidemment, Sony pousse tout leur écosystème d'audio HD. Alors,
c'est pour écouter Bowie.
Ce qui attire, pousse parfois à l'absurde, c'est-à-dire qu'ils avaient je me souviens sur le stand, ils avaient un baladeur HD, ok, super, connecté lui-même à un DSP spécial pour driver ton casque de très haute qualité, mais qui était deux fois plus gros que le baladeur, et là tu commences à dire, attendez, les gars, vous êtes gentils, mais... et évidemment, tout ça avec les fichiers que tu as produits avec ta platine qui te fait des fichiers DSD de sublime qualité.
Exactement.
Tout ça sur un marché où on rappelle que les gens normalement constitués n'arrivent pas à faire la différence entre un fichier WAV de bonne qualité spécialité, ça. Mmh. Donc
mais
bien.
Oui, mais c'est ça aussi, le CES, c'est les trucs qui nous font nous gratter la tête, comme
ouais,
tu
c'est
dis
comme
très
les,
bien.
C'est comme c'est les stands vrai. qui te vendent des câbles audio ou des câbles HDMI à 3000
dollars
pièce, en or. Je suis content parce qu'il y a un magazine américain, je sais plus lequel, mais qui était un peu énervé par tout ça. Mais ça fait longtemps, hein, c'est un vieux sujet, hein, sur Monster, sur tous les fabricants de câbles. On disait évidemment, quand tu as une super chaîne audiophile, c'est bien d'avoir des câbles, tout ça, très très bien pour tes haut-parleurs. Mais le problème, c'est qu'évidemment, avec l'arrivée du numérique, ça rebat un peu les cartes. Et il y a quand même des fabricants maintenant de trucs très haut de gamme qui font du numérique et qui disent non, attends, là pour ça, il te faut un câble Ethernet spécial.
Pardon. C'est Canard PC Hardware qui a démonté ça dans son numéro spécial de l'été, en fait. Il y a un gros dossier sur l'audiophilie qui est incroyable.
Alors, mes amitiés à Canard PC Hardware, que j'aime d'amour, mais et justement, il y a des câbles Ethernet à 10 000 dollars. Et on dit, bah oui, mais ils sont quand même beaucoup plus fidèles et pour le son, c'est très important.
Oui.
Et tu dis, non, mais vous vous rendez compte qu'à l'intérieur, en dessous, vous envoyez des données, il y a de la correction d'erreur. Donc, en gros, le câble à 2 balles, il va faire à peu près la même chose. Hein. Et même s'il perd quelques paquets, le protocole va les rattraper. Et donc, ça y est, là, ils ont fait des tests en vrai. Ils ont dit, non, clairement, ça ne sert à rien.
On est d'accord. Bon, écoutez, on va donc conclure cette grosse partie sur le CES 2016. J'espère que ça vous aura intéressé. Et évidemment, si vous voulez retrouver plus d'informations là-dessus, vous savez où aller, Numérama, LCI, tout ça. Tout est à votre disposition. On va faire une toute petite pause avant de passer aux news et aux rumeurs pour remercier encore une fois les contributeurs du Rendez-vous Tech qui permettent à cette émission de vivre, qui permettent à cette émission de vous résumer toutes les 2 semaines toute l'actu tech. Et je remercie en particulier les Patriotes qui contribue financièrement, comme je le disais. Il s'agit aujourd'hui, pour cette petite pause, de Christian, d'Alex Moget, de Wayne M, Bastien, David Devillers, S-Pop, Stéphane, John Bifle, Jérôme M et Julien Deray. Merci à vous tous de contribuer à l'émission. Vous le savez, j'ai changé la récompense du niveau 3$ et vous pouvez désormais avoir accès au Slack, à la communauté de chat des Patriotes. Donc, si normalement tous ceux qui ont contribué au niveau 3$ ou plus ont reçu leur invitation au Slack, si vous n'avez pas reçu, allez voir dans vos répertoires de spam et ils y seront sans doute, l'invitation y sera sans doute. Sinon, contactez-moi et puis évidemment, je vous renverrai ça, il n'y a pas de souci. On est déjà depuis juste avant Noël en train de discuter là-dedans, c'est très sympa. On est une bonne petite quantité à parler de tech, de jeux vidéo, de plein de choses, de spoilers Star Wars dans la chaîne spécifique spoilers Star Wars, bien sûr. Donc on s'amuse bien, c'est vraiment la vie communautaire que j'espérais pour tout ça. Donc je suis très content de la manière, c'est bien mieux que ces messages préenregistrés qui étaient la récompense, la contrepartie précédente à 3$. Je pense que celle-ci est bien plus efficace. Donc voilà, je suis très content. Si vous n'avez pas encore activé votre invitation, venez y jeter un coup d'œil. Et évidemment, que ce soit pour ça ou juste pour 1 ou 2$, hein, bien sûr, il n'y a pas de petite contribution. C'est patreon.com/rdvtech. Vous connaissez l'adresse, vous connaissez le principe. Je vous remercie 1000 fois de votre contribution. Et on continue avec les news et rumeurs. Avec, on va dire... 2-3 rumeurs qui ont déchaîné les passions. On va commencer avec la rumeur selon laquelle Twitter serait en train de prendre en considération l'idée de supprimer la limite de 140 caractères sur les tweets. Et évidemment, tout le monde a commencé à dire « Ah mais non, ça serait dramatique, si jamais il n'y a plus les 140 caractères, ça va faire comme Facebook, je ne veux pas avoir Facebook en double, on va plus avoir le temps de lire les trucs rapidement, ça servirait à rien, ça dénaturerait Twitter. » Cédric, qu'en penses-tu ?
Bah, je pense que Twitter a envie de changer de produit. Alors c'est vrai que la limitation des 140 caractères, qui est un truc hérité du SMS, bon, mais en même temps, c'est voilà, la concision a quand même des mérites.
Ça a créé un certain type de communication au final, cette contrainte.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si tout à coup Twitter devient Overblog, bah c'est pas pareil. Ouais. Mais je sais pas. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est aussi frustrant parfois de dire non mais attends, pourquoi je peux pas poster une vidéo et une photo. Enfin tu vois, il y a plein de choses qui sont. Mais on comprenait l'intérêt de la limitation parce que ça en faisait quelque chose de très lisible, de quelque chose qui passait par toutes les plateformes. C'est ça aussi hein, le souci.
C'est sûr, c'est sûr.
Bon, mais je pense qu'ils arrivent aussi aux limites de leur modèle. Les choses vont pas très très bien chez eux. L'action. Est pas,
mais je sais pas si c'est lié à ça, moi. Je vais. Bon, non, je vais, attends.
Ils ont besoin de retrouver un second souffle en termes de recrutement d'utilisateurs, de pub, de tout ça, de business. Donc voilà, ils s'aperçoivent que les micro-mesures, tu vois, dire alors attends, c'est plus un machin, c'est un like. Oui, d'accord. Tu es gentil. C'était déjà un like en fait hein, dans la vraie vie réelle. Ouais. Que tout mais ça ne suffit plus et que donc voilà, faut faire des choses qui vont là pour le coup se voir.
Julien, toi, ça te dérangerait que ça passe à 10 000 caractères, la limite ?
Franchement, non. J'ai un peu réfléchi et je me suis dit que c'était c'est pas si grave au fond. Et je suis assez d'accord avec Cédric sur le côté économique. En fait, on l'a traité comme ça sur Numérama assez rapidement. En fait, c'est vrai que Twitter a des soucis en fait. Pour ils n'ont jamais trouvé de business model au fond. C'est un truc qui leur a manqué dès le début. La publicité, ça marchouille, mais c'est pas trop ça. La vente en direct de produits, c'est pas trop ça. Donc, je pense qu'ils se disent que il y a moyen avec en augmentant la limite de faire des choses qui sont plus rémunératrices. Alors c'est peut-être le, nous on avait titré je crois notre papier, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour continuer à vivre. Peut-être que c'est effectivement le cas. En termes d'utilisation, personnellement ça me dérangera absolument pas. Je pense que comme l'a dit Jacques Dorsey, c'est que les gens vont continuer à faire des tweets assez courts. Et c'est une possibilité en plus. Je suis pas sûr que ça dénature le réseau, personnellement.
Ouais, moi je trouve qu'ils ont toujours été très intelligents avec la manière dont ils ont implémenté ces nouvelles possibilités. Ça a été le cas pour les photos. Le fait d'avoir des photos en ligne, enfin dans le tweet, n'a pas transformé Twitter en Instagram. Je pense pas que le fait d'avoir des vidéos n'a pas transformé le truc en YouTube. Je pense pas que tout à coup le fait d'avoir plus de caractères va transformer Twitter en Facebook. Et même au contraire. Pour moi, peut-être qu'il y a des considérations financières là-dedans, mais plus que tout ça, c'est surtout qu'ils réagissent à la manière dont les utilisateurs utilisent leurs services. On voit les tweetstorms des séries de 2, 3, 4, 5, 6, 10 tweets à la suite numérotés, mais tout le temps. C'est ridicule. On est en train de détourner l'utilisation de Twitter pour faire des trucs pour en faire un petit peu plus dessus. Comme c'est exactement comme les retweets et ce genre de d'outils qui ont été développés par la communauté et qui ont formatés par Twitter eux-mêmes. Pareil, combien de fois vous avez vu des articles ou des extraits d'articles pris en photo, en image et postés sur Twitter pour écrire un truc qui était un petit peu plus long. Bah c'est ridicule d'avoir à faire ça. Ça veut pas dire que, alors peut-être qu'ils mettront des limites, genre on peut enfin en faire un toutes les 6 heures ou je sais pas, un truc comme ça.
Oh, ouais, je pense que Twitter a effectivement
ça va pas se transformer.
Ils ont les médias en tête, comme Facebook les a, comme Google les a, comme Apple les a avec Apple News. Je pense qu'ils pensent aussi à ces créateurs de contenu, parce que ce dont ils se sont rendus compte, c'est que finalement, Twitter n'apportait pas de valeur ajoutée. La seule création de contenu qu'on a sur Twitter, c'est du commentaire. Il n'y a pas vraiment de contenu,
contenu sur Twitter en fait. Lui-même, ouais, c'est vrai.
Ça, il y a pas vraiment une vidéo qui est hébergée par Twitter. Enfin, il y a pas tout ça en fait. Les gens ne l'utilisent pas pour ça. Donc là, peut-être qu'ils se disent ah oui, peut-être qu'on a un moyen de faire en sorte qu'on ait du contenu à nous et pas seulement un relais de contenu des autres.
Peut-être dans une certaine mesure, il y a Tweetlanger qui fait déjà ça. Effectivement, il y a parfois, t'as pas besoin de faire un article de blog, t'as juste envie de mettre un commentaire un peu plus long que 140 caractères. Et moi, je trouve que c'est cohérent. Mais bon, on verra comment ça se passera. Moi, je trouve que ça va pas non plus transformer trop Twitter, pas plus que c'est déjà le cas. Toujours sur Twitter, il y a eu une affaire qui a fait un petit peu de bruit en France, en l'occurrence, à propos, et on en a parlé sur le Slack d'ailleurs, pas mal, de cette histoire d'une association, d'une société, je sais plus, qui avait utilisé les tweets promu, mis en avant de Twitter pour mettre des propos très clairement homophobes, pour les mettre devant les yeux des gens qui suivaient des comptes qui avaient un rapport avec la culture homosexuelle ou gay. On pense à des magazines gays qui ont des comptes Twitter, et bien sûr Twitter permet, pour faire, tu parlais de la pub Julien, pour faire de la pub, de cibler les gens qui suivent certains comptes pour leur présenter les tweets promus. Donc là en l'occurrence ils ont utilisé cette organisation, ce système, pour mettre de la propagande homophobe en face des yeux des gens qui suivaient les comptes des tweets, enfin les comptes des c'est compliqué. Bref, oui, vous avez compris.
Des associations,
des magazines, etc.
Ce qui est d'ailleurs un très 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 mauvais ciblage, dans l'ensemble.
Oui, entre parenthèses, oui, c'est un petit peu bizarre. Voilà. Mais ça a provoqué un tollé parce que plusieurs personnes disaient il faut que Twitter agisse immédiatement et supprime ce type de contenu. Et Twitter a répondu écoutez, messieurs, dames, nous sommes désolés. Nous agissons sur décision de la justice. Et donc, nous devons avoir une décision de justice qui nous demande de retirer ce contenu. Alors, il y a eu tout un débat qui s'en est suivi. On a demandé, est-ce que les règles doivent être différentes pour les outils commerciaux qu'ils utilisent et pour le contenu qui est dit sur Twitter, des tweets normaux. Mon argument, c'était, il faut s'en remettre à la justice. C'est la justice qui décide, parce que sinon, si on fait cette règle en France pour tel type de contenu, pourquoi est-ce que d'autres pays ne pourraient pas faire censurer du contenu sur Twitter, qu'il soit des tweets promus ou des tweets, ça devient un débat un petit peu théorique, philosophique à ce niveau-là, mais pour moi, les tweets promus, c'est la même chose que les tweets tout court. Il faut qu'une association ait le droit d'utiliser l'outil de Twitter sans avoir à se demander est-ce que le gouvernement va censurer ou pas tel ou tel truc. Je comprends que c'est de la théorie, et en même temps Twitter est coincé un petit peu entre ces deux problèmes, puisque très clairement ils ont un problème avec le harcèlement sur Twitter, où ils veulent faire en sorte que Twitter soit plus sûr et qu'on n'ait pas de problème de harcèlement, parce que les gens créent des comptes, et évidemment si tu as 12 000 personnes qui vont envoyer des tweets de harcèlement à une personne, tu peux pas attendre que la justice ait envoyé 12 000 mandat ou 12 000, je sais pas, décision de justice pour chaque tweet, surtout qu'ils vont en recréer un autre pour chaque compte. Donc je comprends le problème. Pour moi, sur ce genre de polémique, je préférerais quand même que ça soit une décision de justice qui décide qu'on va interdire cette campagne, plutôt que simplement Twitter qui décide comme ça parce que l'opinion publique dit ouais, bon, ça on n'aime pas.
Il y a deux problèmes. Il y a deux, quand même, toujours, comme toujours dans ces histoires-là, deux problèmes avec ça. D'abord, le rythme de Twitter n'est pas le rythme de la justice. Donc, t'imagines s'il faut faire un référé machin à chaque fois que fait un soir-là.
En l'occurrence, c'était un gros problème, quoi. C'était un truc qui a eu de la visibilité.
Bien sûr. Et l'autre chose, c'est que, comme toutes les autres plateformes, Twitter est face à un paysage juridique qui change pays par pays. Donc, t'as deux choix. Soit la législation la plus restrictive devient la norme, auquel cas on devient tous, sur les libertés sexuelles, on devient l'Arabie Saoudite. Enfin, tu vois, bref, ouais. Ce qui est pas très
intéressant. Effectivement, c'est encore un exemple extrême, mais c'est à ça qu'on pense, quoi. Et puis, mais vas-y, pardon, fini.
Voilà. Et du coup, c'est aussi pour ça que ce sont les plateformes qui font leur propre police.
Attends, pardon. Je dois juste dire un truc, parce que c'est marrant. On a vu au même moment quasiment ce problème être mis en avant avec les gens qui venaient sur Twitter dire ah, mais c'est scandaleux qu'on laisse passer des trucs comme ça. Et en même temps, à une semaine près, à quelques jours près, les gens, d'autres personnes, c'est hashtag les gens, critiquaient Facebook qui censurait le tableau L'Origine du Monde, où, je sais plus, il y avait une histoire avec une statue où on voyait un bout de sein, et qui disait « Ah, mais c'est quoi ce puritanisme américain ? Pourquoi est-ce que vous censurez ce genre de truc ? C'est de l'art, machin. » Alors, je suis tout à fait conscient que c'est des oranges et des pommes, mais ça illustre bien ce problème de décider de quelle morale et de quelle loi finalement laquelle on suit. Et pour moi, c'est pour ça que je dis le plus simple, c'est de suivre celle du pays où on est et qu'il faut attendre la décision de justice. Pardon, je finis.
Ouais, non, mais c'est ça. Mais le problème aussi, c'est que ça veut dire que tu peux lancer n'importe quoi le temps que la justice réagisse pays par pays.
Aussi, oui, je comprends.
Ce sera déjà la fin de la foire, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis Twitter, enfin comme Facebook et comme les grandes sociétés américaines, je pense qu'ils ont un état d'esprit qui est pour le coup très américain, qui est qui est quand même très très affirmé côté de la liberté d'expression. Et aux États-Unis, en gros, on dit bah oui, t'as le droit de dire absolument ce que tu veux, même les choses les plus fausses et les plus cruelles possibles. Mais attends-toi à avoir un retour de bâton parce que bah oui, en fait, la société va te condamner. En fait, la société publique, les gens, en gros, oui, on peut dire comme un Donald Trump a dit, je veux que Microsoft arrête Internet, une connerie pareille. voilà.
Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il a dit, il va falloir arrêter Internet, ce machin, et je vais appeler Bill Gates.
Exactement, voilà.
Mais non, c'est sûr, mais en l'occurrence, Twitter, et c'est peut-être un petit peu pour ça aussi que j'ai réagi comme ça, Twitter est la société qui s'est battue justement pour la liberté d'expression, et y compris dans les pays où c'est un truc vraiment où la liberté d'expression est hyper réduite. Donc, si même Twitter doit se contraindre à ce type de problème où les gens disent « bah ça, on n'aime pas, donc il faut que vous le viriez immédiatement sans décision de justice », c'est problématique et bon, bref, on pourrait en parler longtemps, mais alors, disons
c'est
que
sûr, voilà, mais est-ce que ça rentre pas dans l'appel à la haine, par exemple, parce que là ils ont fait de la provocation, en fait,
mais complètement
ciblant ces gens, ils les provoquent, ils cherchent à les faire réagir, à les faire déraper, enfin c'est
clair. Mais pour moi, le truc, c'est que ce genre de situation est clairement honteuse et c'est pas catastrophique, mais c'est clairement lamentable. Mais si on regarde que celle-là, on se dira bah oui, il faut faire quelque chose là-dessus, il faut le supprimer. Mais le problème, c'est qu'on peut pas regarder ce problème en isolation. C'est ce genre de truc arrivera si on veut en même temps avoir une certaine liberté d'expression dans d'autres domaines ailleurs, sur d'autres sujets, etc. Et c'est automatique qu'il va y avoir des dérapages de ce type-là. Si on veut supprimer tous ces dérapages, on va forcément perdre en même temps autre chose dans un autre domaine. Et c'est cette autre chose que moi je veux préserver. Donc,
il faudrait que la justice, du coup, ait une procédure rapide, en fait.
Je comprends.
Ouais. Une sorte de justice beaucoup plus rapide qui voit ça, qui dit OK, appel à la haine, OK, incitation à propos dangereux, etc. On fait directement un référé, ça nous prend 8 heures et pas.
À vrai dire, même au-delà de ça, oui, ça va prendre 1, 2, 3 jours, une semaine, et ça va être lamentable. Je suis d'accord, mais bon, voilà, ça va arriver une fois. C'est pas la peine je sais pas, il faut se poser la question. Est-ce que c'est la peine de transformer toute notre considération sur la liberté d'expression dans son ensemble pour éviter ce genre de problème? Peut-être, je sais pas, mais je voudrais qu'on y réfléchisse avant de se précipiter et de dire « Ah, il faut que Twitter immédiatement supprime ça dès qu'il y a quelqu'un qui trouve que c'est inacceptable. » Parce que oui, c'est inacceptable, mais je suis pas sûr qu'il faut que Twitter réagisse, coupe le truc dans les 2 heures parce que Twitter a considéré que c'était inacceptable. Bref, voilà. Parlons de problèmes beaucoup plus problématiques qui ont des conséquences, des implications beaucoup plus importantes dans notre quotidien et dans notre vie, dans notre âme. C'est est-ce qu'il va y avoir une prise casque sur le prochain iPhone, sur l'iPhone 7? C'est quelque chose de beaucoup plus important. Alors, on a eu des rumeurs selon lesquelles Apple supprimerait la prise casque de l'iPhone 7 pour la remplacer par soit des casques en Bluetooth, la technologie commence à fonctionner correctement, soit par des casques qui se brancheraient sur la prise Lightning. Alors là encore, Internet a explosé. Honte lamentable, machin. Alors, c'est vrai que c'est super chiant de plus avoir de prise casque jack classique sur un iPhone. Est-ce que ça peut être remplacé par d'autres systèmes plus de meilleure qualité avec le Bluetooth ou avec le Lightning? Est-ce que ça peut amener une finesse plus importante sur l'iPhone? Est-ce qu'on a besoin d'un iPhone plus fin? A priori non, mais enfin les fantasmes, c'est quand même ce morceau de verre transparent dans les films de science-fiction. C'est
impossible
ça dont on se dit que voilà, impossible à tenir en plus. Bon.
Voilà.
Je sais pas. Je sais pas. Ce qui est marrant, ce qui m'a amusé beaucoup, c'était cette levée de la population qui a fait genre 200 000 signatures sur une pétition pour qu'ils gardent la prise casque. On se souvient qu'Apple avait provoqué le même genre de scandale entre guillemets quand ils avaient enlevé les lecteurs de disquettes à l'époque et puis les lecteurs de CD à l'époque. Est-ce qu'ils sont un petit peu en avance? Est-ce qu'il faut quand même les prises casques? Je sais pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Cédric?
Bah, c'est-à-dire que là, il y a, enfin, tu vois, la disruption de la prise casque est pas quelque chose que les foules revendiquaient. Hein. C'est voilà, au moins une interface qui a pas bougé depuis 40 ans et dont dans l'ensemble on est content parce que ça marche partout. Donc ouais, j'avoue que j'ai pas une. Pourtant là, c'est drôle parce que devant moi, il se trouve que j'ai deux casques Bluetooth. J'aimerais très bien avec ça, mais non quoi, non. Par pitié, non, quoi. Tout ça pour faire quoi? Parce que dans les mêmes rumeurs te disent, du coup, ils mettraient une plus grosse batterie. Donc, en fait, c'est pas forcément pour faire un téléphone plus fin, c'est pour gagner de l'autonomie.
Je suis pas sûr que la prise casque te donne, genre, les 2 mm de batterie en plus.
Ah, tu sais. Et puis, c'est problématique parce qu'autant tes cartes électroniques, tu peux leur donner la forme que tu veux. Les batteries, t'as quand même des contraintes physiques. Mmh. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est aussi juste une question pour tester le marché en disant, est-ce qu'ils sont prêts à ça?
Fuite contrôlée, ouais.
Ouais, je sais pas, mais même si je crois jamais beaucoup aux fuites contrôlées d'Apple, c'est pas leur ADN. Voilà, sur le papier évidemment, je suis un peu comme les 200 000 autres. J'ai envie de dire, non, déconnez pas avec ça, ça marche très bien. D'accord. Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis très content par exemple du casque que j'emmène partout, qui sont les petites oreillettes de les QC20 de Bose, tout ça, ça marche avec tout. Tout ce que je vois, c'est que tout à coup, si je pars en voyage et que j'ai un iPhone 7 sans prise casque, bah, faudra que j'ai deux casques. C'est un peu con. Un pour mon Mac et un pour mon smartphone. Ça n'a pas de sens, soyons clairs. Alors oui, je sais, un casque Bluetooth...
Il peut y avoir un adaptateur Lightning Jack, tu vois, c'est...
Pour l'instant, les casques qui sont sortis en Lightning, il y a un Sony qui est sorti, alors ça marche très
bien.
Non,
ce que je veux dire, c'est que...
Le casque lui-même n'est pas terrible.
Non, ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir un adaptateur Lightning vers Jack pour que tu puisses brancher quand même sur ton iPhone ton casque Jack, tu vois.
Ouais,
c'est pas beau, c'est sûr.
C'est comme le MacBook 12 pouces, ça, c'est tu sais qu'il n'a qu'une prise USB-C.
Peut-être de la qualité de son meilleure avec un format iTunes HD pour les tu vois,
ouais,
le lossless.
Mais moi, j'écoute Spotify, donc dans l'ensemble, je m'en tamponne assez sérieusement. Et c'est vraiment exactement le même problème que sur le MacBook avec juste son USB-C. Moi, j'attendais un MacBook 12 pouces depuis très longtemps. Et ben non, cette machine n'est pas faite pour moi parce que j'ai besoin d'un tout petit peu plus de connectique que ça. Et alors évidemment, on dit, ben oui, mais regarde, il y a des boîtiers d'adaptateurs où tu peux en même temps l'alimenter et brancher les trucs USB dessus. Oui, ce qu'on est en train de dire, c'est que tout à coup, la connectique n'est plus le problème d'Apple, c'est le tien. Ben j'aimerais bien que ça reste un petit peu le problème d'Apple.
D'accord.
Donc,
très bien.
Donc
très
voilà,
bien.
Je comprends qu'il y aura une chose après le jack. Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'il y a une nécessité de design à faire ça maintenant? Bah, on verra quand on verra l'iPhone 7. Mais c'est-à-dire qu'il faudrait
c'est
qu'il y ait un
bon... C'est encore qu'une rumeur,
Ouais, bien sûr. Mais, et puis,
il faudrait qu'il y ait une bonne raison.
Design. Exactement. Ouais, il va falloir. Ça. Moi, je suis prêt à tout comprendre. Ça, c'est même comme parce que j'ai compris le passage de la SIM à la micro-SIM à la nano-SIM. Ça pouvait être vaguement casse-pied parfois, surtout quand ton métier, c'est d'essayer plein de téléphones. Mais, ok, je comprends. Je comprendrais même le passage à pas de SIM du tout. Ça, je veux bien l'entendre.
Ouais, d'ailleurs, Microsoft serait visiblement en train de réfléchir à l'utilisation au fait d'avoir un réseau eux-mêmes, pour connecter tous leurs appareils. Ils auraient un réseau Microsoft avec une SIM data Microsoft. On a vu ça.
Très bien. Ça me pose aucun souci. Maintenant, de fait, t'as bien raison. Pour qu'Apple me dise, désolé, on peut vraiment plus mettre de prise casque parce que je veux entendre ce qu'il y a après. Ouais. Parce que.
Il faut
faut un super bon parce que. Pas juste. Écoutez, regardez, c'est à peu près le même. Il est un tout petit peu plus fin et il a plus de batterie.
On est d'accord. Ouais. Et voilà. Moi, en fait, ce à quoi j'ai réagi, c'est que, effectivement, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Et c'est juste, on a juste une rumeur. Il faut attendre de voir. Ça se trouve, ils vont le après le parce que il va être intéressant. Donc c'est comme, mais quand même la réaction. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que tu dis. Tu sais qu'il va y avoir un après prise jack. À un moment, on va passer à autre chose. Mais pourtant, les gens, la réaction initiale, c'est toujours ah mais non, mais on avait eu la même avec les disquettes, les CD, etc. Mais bon.
Les changements de prise sur les périphériques Apple aussi.
Ouais.
Hein.
Là aussi, il fallait comprendre, c'est ça, c'est une fois tous les 10 ans, bon, soit. Alors, s'ils font ça, honnêtement, moi j'ai pas beaucoup de conseils à leur donner, qu'ils en profitent directement pour tout passer à l'USB-C, parce qu'au moins c'est une vraie interface standard. Non mais c'est ça, mais c'est vrai.
Oui oui, non mais je suis d'accord, moi l'USB-C, alors, je suis l'USB-C apporte finalement tout ce qu'apportait la prise Lightning de d'Apple. Donc mais bon, évidemment, ils peuvent pas changer, ça fait 2 ans, ils vont avoir une révolution s'ils changent maintenant. Donc
Pourtant ça ferait sens. Parce que tout à coup, je pourrais n'avoir qu'un casque pour mon futur MacBook, parce que c'est un peu vieux, et pour mon iPhone, et pour l'iPad qui viendra après, et tout ça. Là, je suis prêt à l'entendre. Ouais.
Bon. On écoutera ce qu'il y a après le parce que dans la prochaine conférence Apple, si cette histoire est confirmée. Bon, concluons avec quelques news rapides sur le Reddit du Rendez-vous Tech. Le patriote Mika, notre Mika, nous dit que Flash n'a pas été le logiciel le plus vulnérable de 2015, et notamment les plus pointés du doigt sont, par exemple, au hasard, des sociétés comme Apple ou comme Microsoft, ou voilà, c'est pas Flash qui fait que... Mais bon, je trouve que c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu artificiel de dire ça, parce que quand on prend Flash, on prend un produit d'un côté, et quand on prend Microsoft ou Apple, on prend l'ensemble de leurs produits. Donc, ok, d'accord.
Tu regardes le nombre de produits soft de Microsoft et ça tournit quand même dans l'ensemble.
Et puis, les vulnérabilités Apple, effectivement, il y en a qui sont très graves, mais les mises à jour sont tellement systématiques que c'est aussi difficile à considérer à les mettre dans le même sac. Mais bon, je comprends, effectivement, c'est intéressant de voir que c'est pas Flash qui avait le plus de vulnérabilités. Des vignerons nous dit que Internet Explorer 8, 9 et 10 ne sont plus supportés par Microsoft. Donc, si vous n'êtes pas passé à quelque chose de plus récent, il serait peut-être temps de le considérer. Il nous dit aussi... Oui, message aux administrateurs, oui, ça y est, le moment est venu. Des vignerons, toujours un patriote, nous dit que le mariage entre Orange et Bouygues serait peut-être plus avéré, avec des confirmations, effectivement, de la part de ces entités qui nous disent que les négociations formelles auraient démarré. Alors, c'est un peu compliqué.
Des vignerons lit la presse, c'est bien.
C'est ça, c'est ça. Mais bon, c'est un petit peu compliqué à comprendre, parce que il faudrait aussi que Bouygues vende son réseau d'antennes, peut-être à Free, enfin sans doute à Free, parce que ils peuvent pas, ça ferait un trop gros réseau on en avait parlé à l'époque, mais bon voilà, ça serait un petit peu compliqué. Orange rachèterait peut-être Groupama pour faire sa banque en ligne. OK, pourquoi pas.
Attends, c'est intéressant. Oui. Orange, ils avaient déjà inventé des simili solutions de paiement avec son mobile, etc. Mm-hmm. Et on voit qu'on est là aussi à la veille de grandes manœuvres dans la banque, qui est le prochain truc. Enfin, tu vois, si tu demandes aux gens qu'est-ce que vous aimez pas dans la vie, ils disent les huissiers, la maladie et ma banque. Ouais. Moi, j'ai découvert un truc cette semaine, enfin là, de les 10 derniers jours, une nouvelle banque en ligne qui s'appelle Number 26. Il se trouve qu'ils sont allemands, mais on s'en fout. Maintenant, le paysage bancaire européen, il est normalisé. On se fait des virements avec des IBAN, etc. Et ils ont une app sur Android, sur iOS. Ils ont un site web magnifiquement fait, et c'est une banque gratuite. Mais alors entièrement gratuite. Et tu grattes, tu dis attendez, à un moment je vais payer. Non, c'est gratuit. Et ça, c'est gratuit aussi. Et ça, non. Ouais,
ils se payent sur les investissements, enfin sur les, pas les dividendes, les intérêts de l'argent que t'as placé, quoi, qui eux ils vont placer.
Alors eux, ils expliquent que non, ça c'est parce que je le compare avec le compte Nickel, qui est le truc qu'on a de plus approchant en France, mais qui lui coûte 20 euros par an. En gros, c'est une banque simple que tu gères surtout en ligne et sur une appli, mais avec une vraie carte de crédit. Mmh. Et honnêtement, moi je suis ahuri. Je pense que je vais montrer ça à mon banquier normal français et il va s'évanouir. C'est-à-dire que j'ai ouvert un compte en banque sur une appli sans jamais me déplacer dans une agence, évidemment, parce que je vais pas aller à Stuttgart. Ils sont à Berlin. Et alors, tu dis, oui, mais comment est-ce qu'on sait que c'est vous? Eh ben, c'est simple. J'ai, un matin, à 8h, cliqué sur une icône et ça a démarré une visioconf avec un mec à Berlin qui m'a dit, je peux voir votre passeport? Oui, merci. Il a pris des captures. Est-ce que vous pouvez le mettre de côté, que je vois les hologrammes? Oui, absolument. Voilà, c'est très bien. Pour vérifier mon adresse, c'est simple. Ils m'ont envoyé une Mastercard qui marche sans fil, qui est jolie, d'ailleurs, toute transparente, etc. Et après, tout est géré gérer dans une app qui fait en plus les trucs très intelligemment, un peu à la banquine, genre je sépare tout de suite tes dépenses en disant tu as dépensé tant en resto, tant en transport, tant tout ça. Et j'ai, mon cerveau a pas encore cliqué sur le fait que oui, c'est vraiment gratuit. Alors évidemment, la seule chose que ça ne sait pas faire, comme le compte nickel d'ailleurs, c'est que c'est impossible de déposer un chèque et tu peux pas faire de chèque non plus. Mais enfin, là, je suis d'accord sur le fait qu'il est peut-être temps de passer à autre chose que le chèque. C'est pas la prise jack.
Que moi, je vous avoue que quand il y a des étrangers qui viennent en France et qui voient qu'on utilise encore des chèques, les yeux leur tombent de la tête, quoi. C'est vraiment.
Ça dépend. Tout le monde utilise un petit peu de chèques encore. Moi, tu vois, je dois faire 4 chèques par an, quoi.
Voilà. Ouais. Oui, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, enfin, je sais pas, moi, dans les pays du Nord, par exemple, tout se passe par virement.
Oui, c'est ça.
Il y a des systèmes hyper malins. Quand tu veux payer une facture, tu as un numéro de référence, tu mets ce numéro de référence dans la ligne du sujet du virement que tu fais à la société en question. Donc eux, ils savent que t'as payé ta facture et c'est terminé. T'as juste payé ton truc et t'as pas besoin de t'emmerder. Enfin bref.
Évidemment, et là tout se passe par virement. J'ai même découvert un truc, c'est que sur Number36, tu peux envoyer de l'argent aux gens que tu connais s'ils ont un compte dans la même banque. Instantanément à la PayPal. Et d'ailleurs avec un truc. Le premier truc un petit peu surprenant, c'est que tu dis bon, alors à qui je peux envoyer de l'argent, il regarde ton répertoire et il dit qui a un compte. Ah bon, d'accord.
C'est comme Snapchat, tu sais immédiatement qui a un compte.
Et Cédric, quel est l'apport mensuel minimal du coup? Parce que
zéro. Et en Allemagne, mais ça, ils le feront en France. C'est limité. Ça marche pas dans le monde entier. Enfin, je veux dire, tu peux pas ouvrir un compte dans tous les pays, mais ça marche en Italie, en France, etc., etc. Et avec des trucs que j'avais jamais vus. Tu vois, le genre de truc où il faut reprendre un rendez-vous avec ton conseiller, normalement. C'est-à-dire, par exemple, tu peux changer juste avec une réglette dans l'appli les limites de ce que tu peux envoyer par virement, les limites de dépenses sur ta carte. Tu peux directement switcher on ou off le fait que ta carte puisse être utilisée pour des achats en ligne, puisse être utilisée.
Et la sécurité dans tout ça, Cédric, hein? Et c'est là, on a des trucs pratiques, mais la contrepartie en sécurité, hein, monsieur Ingrand?
Ah, mais tout ça est validé par mon empreinte soit iOS.
Ah, d'accord.
Ah ouais, bah oui.
Bon, effectivement, non, mais c'est intéressant de se dire que la banque est peut-être le prochain domaine à être révolutionné par l'informatique.
Je crois que là, ça va faire très, très, très mal.
Ouais. Bah, moi, en tout cas, tu m'as convaincu et je vais aller m'inscrire tout de suite.
Il y en a un autre que j'ai pas essayé qui s'appelle Revolut. Qui je crois celui-là est iOS only, mais que je vais probablement aller essayer. Mais là, j'avoue que tu te grattes la tête. Mais tu sais, tu cherches le truc parce que t'es tellement habitué quand même dans l'ensemble à te faire violer par ta banque, à avoir des trucs sur ton relevé en disant je paye ça moi. Je me suis aperçu que je payais le droit d'aller consulter mes comptes en ligne. Ça me met hors de moi.
Enfin, oui, c'est sûr.
Il y a 20 ans, je comprenais. Aujourd'hui, attendez, arrêtez de vous foutre de moi.
Bon. Voilà.
Donc il est temps de passer à autre chose et voilà, les solutions existent.
C'est pas comme la prise jack.
Juste un truc, je me suis aperçu qu'il va falloir que je déclare ce compte administration fiscale parce que c'est un compte à l'étranger, même si en même temps, c'est pas immédiatement apparent en fait.
Notre Mika nous dit toujours sur Reddit que Remix OS est disponible dès le 12 janvier, donc le lendemain de cet enregistrement. Remix OS, c'est un fork d'Android pour ordinateur de bureau, pour PC, par exemple.
Il y aura un test sur Numérama d'ailleurs. On a commandé le petit truc là qu'ils ont sorti, le petit boîtier Remix, je sais pas comment ils l'avaient appelé. Et du coup, on l'a reçu et on va vous proposer un test de cette chose un peu bizarre.
Le Remix Mini.
Exactement, c'est ça. Ouais, bah voilà, on est au bureau.
Et c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé d'alternatives à Windows et de ce qu'il était possible de faire pour mettre un peu de concurrence. Et ben, mine de rien, ça revient un petit peu à Linux parce que finalement, Android est basé sur Linux et là, Remix OS est un fork d'Android. Donc c'est encore une version de Linux, mais bon, évidemment, c'est très différent. Je sais pas si c'est encore vraiment Linux Android. Mais bref, Android pourrait être une alternative intéressante à Windows. Pourquoi pas? Pourquoi pas? PG nous dit qu'il y a des rumeurs sur le Samsung Galaxy S7. Il y aurait notamment le retour du lecteur de carte micro SD, un écran AMOLED qui serait toujours allumé, donc qui pourrait avoir certains pixels allumés pour vous donner des infos, une plus grosse batterie, un appareil photo de 12 mégapixels avec une ouverture de 1,7, ce qui serait
ça,
pas
c'est
mal
top,
du
ça.
Tout.
Ça c'est. Et il paraît aussi qu'il y aurait une prise jack.
Mais ça, c'est pas confirmé. Et enfin, je voulais parler de l'acquisition de la MLG, de la Major League Gaming par Activision, qui signale encore une évolution dans le domaine de l'e-sport. Mais ça, on en parlera dans le rendez-vous jeu. Donc, si ça vous intéresse, je vous propose d'écouter le rendez-vous jeu qui est enregistré et diffusé en alternance une semaine sur deux avec le rendez-vous tech. Donc, comme ça, ça vous fait une émission par semaine, hein, rendez-vous tech, rendez-vous jeu. Mais donc, pour conclure, on va plutôt vous parler du nouveau challenge de Mark Zuckerberg qui nous dit que pour son année 2016, vous savez, il se donne un challenge par an, il va essayer de se construire lui-même une intelligence artificielle de type de celle de Iron Man. Vous savez, dans Iron Man, il y a Jarvis qui est une intelligence artificielle qui contrôle sa maison, qui lui permet de connecter tous ces éléments de sa maison ensemble, et lui, il voudrait se la coder lui-même. Alors, moi, évidemment, j'ai tout de suite pensé au système Sarah de notre ami JP en cause. Mais donc, il voudrait faire ça. Je trouve ça pas mal parce que il va mettre les mains dans le cambouis. C'est un président d'une immense société qui va essayer. Alors, ça veut pas dire qu'il va faire des trucs impossibles, hein. C'est pas du tout l'idée et pas du tout de faire des trucs, de créer des trucs, d'imaginer, enfin, d'inventer des trucs. Mais c'est surtout que lui, il va les faire lui-même. Peut-être que ça va l'influencer dans la manière dont il voit les choses pour sa société aussi. Mais il va essayer de rester proche de ce qu'il a fait à l'origine. Lui, c'était un codeur à l'origine. Et il va essayer de continuer à investiguer dans ce domaine. Je trouve ça hyper... je sais pas pourquoi ça me rend heureux. Je me dis que même un président d'une immense société comme celle-là, dont qu'on peut beaucoup critiquer pour beaucoup de choses qu'ils font, il essaye de rester un petit peu proche de ce qu'il était à l'origine, un petit peu proche des geeks qui vont mettre les mains dans le cambouis, quoi.
Il a toujours fait, je crois. Hein. Je crois que c'est un des traits de sa personnalité qu'on lui remarque assez souvent, c'est d'être assez souvent proche de ses produits. Je crois pas qu'il se soit exclu à un moment.
Non, c'est vrai, il avait même codé lui-même une fonctionnalité de Facebook en quelques jours qui finalement n'avait pas eu de succès, mais c'était même pas tellement important, quoi. Je sais plus de laquelle il s'agissait, mais...
Mais c'est, moi, il y a plusieurs choses qui m'étonnent. Il fait ça tous les ans. Hein. C'est
son,
comme ça
son
qu'il
challenge,
a,
oui.
Ouais, c'est comme ça qu'il a appris le mandarin. C'est comme ça qu'il s'est résolu à lire. Je sais plus si c'était un livre.
C'était
par semaine.
C'était un livre par semaine, un truc voilà. Comme ça.
Manger que les animaux qu'il tuait.
Oui, ouais, aussi. Alors là, ouais. Là, on était, ouais, bon, très bien.
Pourquoi pas? C'est bon, bref.
Mais je l'imagine juste se baladant avec son arc et sa carabine.
mais c'était pas.
View, tu vois,
mais
pas,
oui, ça aurait été bien, mais c'était évidemment voilà. Pas comme ça que ça s'est passé.
Clairement, mais c'est intéressant parce que je pense aussi qu'il a saisi que ça fait partie des. On en a pas parlé pour autour de CIS, mais là aussi sur la domotique, c'est pas tant ce qui sort qui est intéressant parce qu'il y a plein de choses, des caméras, des machins, des capteurs. C'est que tout à coup il y a des plateformes qui permettent de les opérer ensemble. Avant la domotique, c'était un truc très compliqué et très cher parce que en gros tu allais prendre tous tes trucs chez Legrand, chez machin, et t'avais une espèce de plateforme monomarque qui fonctionnait mais qui était limité à ce que ça va faire la marque. Là maintenant c'est terminé. Alors je vais en profiter pour vous raconter ma vie. Il se trouve que j'ai maintenant une maison de campagne en Bretagne construite par ma maman. Et ma maman a dit, bah, on va en profiter, on va mettre un peu de domotique dans cette maison. C'est une vieille maison, mais rénovée. Et elle a trouvé, parce qu'évidemment, ça se trouve à côté de Lannion, dans la Télécom Valley. Il y a plein de bons ingénieurs, de bonnes écoles et de start-up. Et elle a trouvé une boîte qui fait ce genre de choses, tout ça. Bon, et elle a dit, bah, écoute, je te mets en copie des mails, hein, tu gères avec eux. alors, évidemment, le type l'a rappelé en disant, mais votre fils, c'est Cédric Ingrand. Donc, il a fait attention. Et je me retrouve face à cette boîte qui fait une plateforme géniale. Alors ils ont fait un truc énorme, c'est qu'ils ont pris, tu sais, des espèces de vrais faux petits Apple TV chinois sous Android qui ont un intérêt, c'est qu'ils coûtent $40 et ils ont mis leur soft dessus plutôt que de réinventer la roue et de prendre une machine chère. Et en fait ils ont fait un truc magnifique, mais magnifique, qui permet d'utiliser les sondes de température d'une marque, les volets Somfy, tes lampes Philips, enfin tout ce qui existe sur le marché, et surtout toutes les normes. Si tu utilises une norme radio qui est pas embarquée à l'intérieur, bah c'est pas grave, tu rajoutes un adaptateur sur une prise USB, c'est facile. Et du coup, ça parle à tout avec une plateforme qui permet de faire des scénarios. Tu vois, genre j'ouvre la porte du garage, donc ça allume la lampe de l'entrée, ça met ça. Mes Velux sont ouverts pendant plus d'un quart d'heure.
C'est de la domotique qui marche, quoi.
Ouais, c'est de la domotique qui marche, que tu gères sur ton PC, sur une interface web ou sur des applis iOS et Android. Et là, j'étais ahuri, je leur dis, mais c'est vachement bien votre truc, mais ça marche vos affaires? Bah ouais, on est content, on a des clients et tout. Oui, non, mais attendez, vous comprenez pas, c'est pas moi qui devrais aller à la CIS, c'est vous. je pense que c'est aussi ça, la French Tech, c'est arriver à faire saisir à certaines sociétés la valeur de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont arrivés à créer. Donc voilà, il va se passer plein de trucs. Et de fait, en lisant le truc de Zuckerberg, je me dis, ah oui, ce serait bien qu'il y ait un truc pour faire la commande vocale de tout le système, disant finalement, vas-y, ferme les volets de l'entrée.
Lui-même a parlé d'Amazon Echo, d'ailleurs. Il l'a évoqué dans son post en disant que c'était quelque chose qui le fascinait et qu'il aimerait beaucoup. Je pense qu'il va aussi l'utiliser dans ses...
D'ailleurs, même, entre parenthèses, c'est intéressant, cet Amazon Echo, même Ford est en train d'intégrer Echo et Alexa dans sa plateforme Sync. Mais ouais, c'est marrant parce que moi, c'est exactement ce que je disais à notre ami JP Encausse il y a quelques années. Je lui disais, mais ton truc est incroyable. Tu peux parler à un assistant et il te connecte tout ensemble. Et je lui disais, mais il faut essayer de faire quelque chose avec ça. Et bon, pour différentes raisons, il a décidé de pas le faire, mais pour moi, il y avait effectivement quelque chose à prendre là-dedans, et peut-être que c'est un petit peu ce qui manque aussi en France. C'est cette idée de dire, oui, on fait des trucs super cool, on a des ingénieurs incroyables. Peut-être cet esprit d'entrepreneuriat qu'il faudrait qu'il soit plus présent, et peut-être que la French Tech
réussira. Le message que portait, parce qu'il n'a pas annoncé de nouveauté, mais il a quand même des choses à dire, Emmanuel Macron, outre le fait qu'il a une très jolie barbe. le message qu'il portait, c'était de dire, il y a une chose qu'il faut faire en France, maintenant qu'on a fait plein de choses et qu'on arrive à saisir la valeur de ce qu'on a, parce que faut se souvenir qu'on est quand même dans le pays le plus pessimiste au monde. C'est de dire qu'il faut que le prix de l'échec, il faut baisser le prix de l'échec.
Mmh. Oui, c'est exactement l'un des thèmes récurrents. Et que voilà. Le stigmate et le...
Je voyais un entrepreneur désespéré sur Twitter qui disait, en France quand même c'est dur parce que quand t'embauches t'es un exploiteur, quand tu licencies t'es un salaud, et quand tu t'expatries t'es un traître.
Et quand ta boîte ferme t'es un raté.
Ouais, c'est ça. T'as du mal à t'en relever. Alors certes, évidemment, Emmanuel Macron était venu dire aux gens ce qu'ils avaient envie d'entendre.
Oui,
il avait devant lui un parterre de patrons de start-up, donc évidemment ça marchait. Mais je te dis, mais moi j'étais ahuri, les fanboys quoi. Mais oui, de fait, voilà, s'il reste une chose à faire, c'est peut-être juste faire qu'on ait le droit de se planter, parce que plus on se plante et plus on a de chances de réussir, comme on disait dans les Shadowcats.
C'était oui. Pas mal. C'était quoi le nom de la boîte qui a fait la domotique de ta...
Anthemium, l'application qui est sur iOS, je vais vous dire ça immédiatement. L'application s'appelle Domus, D-O-M-U-S, et la boîte s'appelle... Attends, ça boot. Athemium, A-T-H-E-M-I-U-M. C'est simple, mais c'est remarquable. Et puis en plus, ouvert. C'est bien d'avoir des petites boîtes qui font ça, parce que tu leur dis, mais tiens, ça parle pas à IFTTT. Ah bah c'est pas grave, on va le faire. Ah bah voilà.
Très bien. Super. Eh ben écoutez, merci Cédric, merci Julien. C'était très sympa de vous avoir tous les deux pour ce compte-rendu du CES. Est-ce que vous pourriez nous dire... Oui, Julien ?
Non, rien. Je disais que oui, c'était super cool.
Bah justement, est-ce que tu pourrais nous dire... j'imagine que c'est Numérama, mais où on peut en avoir un petit peu plus sur ces sujets et sur d'autres. Et puis ton compte Twitter, bien sûr.
Ouais, alors sur Numérama, on a fait un tag qui regroupe toutes nos news CES. Donc c'est /tag/CES. Mais si vous avez envie de ne rien taper, c'est sur la home. On l'a mis en une. Donc c'est la grosse bannière rouge. C'est écrit CES 2016. Impossible à manquer. Et sinon, mon compte Twitter, @JulienCDT, facile.
Super, JulienCDT. Merci. Cédric, rappelle-nous tout ça.
Attends, je suis en train de lire les trucs sur Sarah parce que j'en connaissais pas l'existence.
Ah, c'est vrai ?
Non, non.
Ah, mais malheureux. Mais c'est fou. Ah ouais, non, mais... Sarah, en fait, c'est un système développé par JP Encausse, Jean-Philippe Encausse, depuis des années. Ça fait des années qu'il fait ça. Et il connecte des systèmes de reconnaissance. C'était Siri avant Siri, en fait. C'était Sarah de l'idée de la série Eureka.
Oui,
et il y a des démos, mais ça marche. Moi, je l'avais découvert par Cédric Bonnet de Geek Inc. Mm-hmm. Et il y a des démos, des trucs qui sont... Aujourd'hui, ça paraît même un petit peu moins incroyable parce que des années après, il y a des grosses sociétés américaines qui sont arrivées à faire un petit peu le même genre de truc. Mais JP avait, trois ans d'avance, quatre ans d'avance, quoi.
Ouais. C'est vachement bien son truc.
Voilà.
Où est-ce qu'on me retrouve sur Twitter @Cédric et puis plein écran sur LCI toutes les semaines. Première diffusion 13h40. Je sais plus si c'est. Oui, c'est ça. Je sais plus si c'est 13h10 ou 13h40 le samedi. La grille des programmes est en public et il va falloir s'y habituer parce que LCI, ça y est, arrive en gratuit.
Wouhou.
Ça
la route a été longue.
Ah bah la pente a été forte. Alors on ne sait pas, quelque part entre le 26 janvier et mi-février, à un moment on vous dira il va falloir relancer la numérotation de vos chaînes TNT et vous devriez nous retrouver probablement sur le canal 26. Voilà.
Magnifique. Super. Et évidemment, @Cédric, je crois que tu l'as dit, ouais, sur Twitter. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. C'est aussi sur frenchspin.fr où vous retrouverez cette émission et d'autres, comme le rendez-vous jeu, comme je vous le disais, qui est en alternance avec le rendez-vous tech toutes les deux semaines. Et si vous voulez laisser des commentaires sur les sujets qu'on a évoqués, nous dire les bêtises qu'on a dit, entre autres, vous pouvez le faire effectivement sur la page de cet épisode sur frenchspin.fr. Et si vous voulez soutenir financièrement l'émission, si vous estimez qu'elle vous apporte un petit quelque chose et que vous vous dites « bon allez, un petit dollar par épisode, ça le vaut bien », vous jetez une petite pièce ou un petit billet, c'est sur patreon.com/rdvtech. Les liens sont partout sur le site et sur l'app, enfin sur dans le podcast, évidemment. Vous pouvez voir sur votre app de lecteur de podcast le lien qui s'affiche là-bas aussi. On vous remercie dans tous les cas d'avoir été avec nous pour cet épisode. On vous fait plein de bises et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous!